Déjà, bonsoir à tous et merci de m'avoir invité à intervenir ce soir. Comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas chronométré, mais je vais quand même m'assurer de ne pas trop traîner plus que nécessaire, vu qu'il est déjà 21 h. Alors, il m'a été demandé, il y a déjà un mois ou deux, de livrer une sorte de mise à jour concernant l'état de la Chine, en particulier sur le plan économique. Et le hasard fait assez bien les choses, si j'ose dire, puisque le calendrier a voulu que la date de mon intervention concorde avec une actualité quand même assez riche en la matière. Puisque comme vous le savez certainement, vous avez dû voir passer cette information, le Bureau national des statistiques, qui est à peu près l'équivalent chinois de l'INSEE, a révélé les chiffres, enfin les principales données économiques trimestrielles, et notamment le chiffre de la croissance, qui est de 0,4% du PIB, c'est-à-dire très peu, en dessous des estimations, et à deux doigts d'être négatif. Alors une récession, puisque c'est l'intitulé, on va dire, de mon exposé, conventionnellement est une baisse du PIB sur deux trimestres consécutifs. Donc, selon cette définition, la Chine a échappé de très très peu à une récession. Pour autant, les données économiques qui ont été livrées à cette occasion, à savoir par exemple les chiffres de la consommation, de la production, l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes, donnent plutôt matière à s'inquiéter. Alors, les causes de ce ralentissement, souvent, elles sont déjà bien connues par tout le monde. Il s'agit de, par exemple, la politique qui est menée pour lutter contre la propagation du virus, avec de spectaculaires mesures restrictives dans des villes comme Shanghai ou Beijing, avec la persécution d'un certain nombre d'entreprises ou de chefs d'entreprise qui sont un peu trop critiques du gouvernement en place, ou encore des faillites assez nombreuses et assez spectaculaires d'entreprises de très grande taille qui sont écrasées sous le poids de leurs dettes. Alors la question qu'on me pose le plus ces derniers mois et que vous vous posez certainement, c'est que fait le gouvernement chinois en fait? Comment se fait-il que, ils prennent des mesures si draconiennes vis-à-vis du Covid-19 alors que la vie semble être revenue à la normale chez nous à tout égard? Pourquoi est-ce qu'ils laissent couler l'économie alors qu'on s'imaginait un pays comme la Chine très très intéressé par sa santé financière? Pourquoi est-ce que l'État n'intervient pas? Si on prend la crise économique qui est directement causée par les mesures prises pour lutter contre le Covid-19, rapportées au PIB, le montant du plan de sauvetage qui a été élaboré par le gouvernement chinois est pratiquement deux fois moins important que celui de la France, plus de trois fois moins important que celui du Japon ou du Royaume-Uni, et cinq fois moins que le programme qui a été déployé aux États-Unis, qui pour le coup n'ont pas eu peur de passer pour des socialistes. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que la Chine ne fait rien? Et l'inaction d'un pays qui est quand même aujourd'hui la plus grande économie de la planète en termes nominaux laisse assez sceptique. Alors la réponse, elle est très simple, mais l'explication demande un peu plus de finesse et surtout d'analyse historique. C'est pour ça que je vais faire beaucoup d'histoire ce soir, pour bien comprendre en fait d'où on vient et dans quelle situation on se trouve. Cette réponse, c'est que derrière les excellentes performances économiques de la Chine, derrière sa remarquable résilience lors des différentes crises mondiales, c'est un pays qui est encore assez fragile. Il se trouve qu'au cours d'un célèbre discours qui avait été prononcé par le président Xi Jinping en 2017, et que je vous avais déjà rapporté au cours d'une précédente intervention, il avait identifié trois risques majeurs pour l'avenir. Alors moi, j'avais surtout parlé à cette époque-là du premier qui était la pollution, ce qui représentait un changement doctrinal quand même très important dans la pensée officielle, faisant état notamment des eaux claires et des montagnes luxuriantes à protéger quoi qu'il en coûte. C'était une direction d'ailleurs qui avait été abondamment commentée à l'international. Vous avez certainement en tête cette mesure qui vise à ne plus avoir d'émissions, enfin être neutre sur le plan des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030. On avait un autre risque, le deuxième risque, qui était l'inégalité de richesse, avec vraiment cette idée que la dégradation du niveau de vie d'une grande partie de la population était bien connue, de même que les excès et le luxe qui étaient affichés par les grandes fortunes du pays. Et tous les problèmes qui étaient attenants à la concentration de richesses. Le gouvernement avait ressuscité à cette occasion la notion de foyer raisonnablement prospère, qui est encore une fois un élément doctrinal très caractéristique de l'époque de Deng Xiaoping. Et là, encore une fois, personne n'était trop surpris. Mais pour le coup, le troisième risque qui était évoqué était le risque financier, et c'est une notion qui a été remarquablement ignorée en fait dans la presse, un peu comme si c'était quelque chose de superflu ou de très convenu dans la formule. Or, ce risque financier, en réalité, il est au cœur des problèmes qui nous occupent ce soir. En 2014, aux alentours de cette année-là, en 2013-2014, l'État chinois a réalisé que, outre sa propre santé financière, de nombreux acteurs s'étaient considérablement dégradés au fil des années. des entreprises d'État notamment, qui ne sont pas du tout rentables et qui ne peuvent pas, ne pouvaient pas assumer seules le service de leurs dettes, les finances locales qui dépendaient et dépendent encore aujourd'hui largement de structures opaques et hors bilan, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans les comptes officiels, des promoteurs immobiliers, des grandes holdings privées qui se sont surchargées de dettes et qui peinent de plus en plus à accéder à de nouveaux fonds, avec en parallèle de nombreuses petites banques très mal capitalisées et assez exposées à des emprunteurs à risque. Donc, conscient en fait de cette vulnérabilité, pour y remédier, dès 2015, une sorte de plan de bataille a été mis en œuvre pour éteindre à l'avance tout risque de crise financière. Et c'est précisément cette volonté de lutter contre des dérives financières qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'actualité chinoise. Ces acteurs dont la vulnérabilité s'est accrue au fil des années, ils sont vraiment de toutes formes et de toutes les tailles. Et le gouvernement n'a pas la volonté de contenir l'ensemble des problèmes de solvabilité en Chine. La plupart des faillites, la plupart des problèmes de paiement se règlent par des méthodes très conventionnelles, par la médiation, par la restructuration de dettes ou, le cas échéant, par les tribunaux. Mais lorsqu'une entreprise ou un secteur d'activité entier commence à menacer la stabilité économique ou financière du pays, ou lorsque il ou elle est jugé stratégique par le gouvernement, alors dans ce cas-là, ce dernier va mener une politique très active et vraiment rentrer au cœur des dossiers. Et c'est particulièrement vrai sur six types, on va dire six catégories de sociétés qui sont susceptibles, eh bien, de rencontrer des problèmes de solvabilité et d'intéresser le gouvernement. Ces six catégories qu'on peut dresser d'entreprises concernées par ces problèmes sont d'abord les entreprises publiques, qu'elles soient au niveau local ou national. Ce sont les banques et les caisses de crédit locales que j'ai évoquées plus tôt. Ce sont les développeurs immobiliers, les véhicules de financement local. Ça vous paraît peut-être très étrange comme nom, je vous expliquerai de quoi il s'agit, c'est capital. Ce sont les grandes holdings privées et enfin les grandes entreprises technologiques dont vous connaissez certainement les principaux noms. Je vais les passer en revue très rapidement en prenant quelques exemples qui, à mon sens, devraient bien vous éclairer sur les menaces auxquelles le gouvernement cherche à faire face. Et d'ailleurs, au passage, peut-être dissiper quelques idées reçues ou quelques mythes qui circulent assez abondamment dans la presse. Et je le déplore. Alors, les premières, j'ai parlé des entreprises publiques. Ce sont des entreprises qui, aujourd'hui, représentent à peu près 40% du PIB. Donc, c'est à la fois peu eu égard à leur poids dans l'histoire de la Chine, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez remarquable au plan international. Elles jouent un rôle qui est assez important. Donc, c'est des entreprises qui sont structurées sous la forme d'une société classique, un privé. C'est simplement l'État qui est l'actionnaire. Elles conduisent une activité lucrative, normale, régulière et participent à la création d'emplois, tout en étant très rapidement mobilisables pour assurer, par exemple, des grandes politiques industrielles ou des politiques de développement. Ce sont des entreprises qui sont comparables à ce que fut dans le passé la SNCF ou EDF, par exemple. Ce sont aussi des entreprises qui comment dire, participent à des grands projets qui ont un intérêt stratégique, un intérêt national. On peut prendre pour exemple le réseau routier chinois, ça représente 160 000 kilomètres qui ont été construits en seulement 30 ans. Le réseau ferroviaire à grande vitesse, qui est aujourd'hui le plus étendu de la planète. Ce sont aussi des entreprises qui peuvent répondre à des contraintes stratégiques fortes dans des domaines comme l'énergie ou la construction, ou la logistique ou les transports. Donc sans attendre et sans tenir compte de la rentabilité financière du projet qui va être mené. Et ce sont aussi et surtout des entreprises qui assurent une mission d'utilité publique. C'est particulièrement important en Chine, qui est un très grand pays et où les infrastructures sont souvent onéreuses et peu rentables lorsqu'il s'agit de servir une multitude de villages ou des provinces très éloignées, très isolées, dans les montagnes ou dans le désert, qu'il est rarement facile d'accéder. Et donc, on va retrouver un peu cette logique en France avec, j'ai cité EDF, SNCF, qui couvre des parties du territoire à perte, ou encore Air France, qui assure, contre toute logique financière, la liaison avec certains territoires d'outre-mer. En Chine, c'est très important parce que, encore une fois, c'est un pays qui est très très grand en termes de superficie. Alors, pour toutes ces raisons, les entreprises publiques, elles sont généralement moins rentables que les entreprises privées, c'est logique. Elles ont en général un rendement qui est de 2 à 4% inférieur en moyenne par rapport aux entreprises privées. Et en parallèle, la garantie implicite du gouvernement leur permet un emprunt beaucoup plus facile. Elles ont une qualité de signature qui est plus élevée, des taux d'intérêt qui sont plus bas, et cela les expose davantage à un déséquilibre financier. Et c'est particulièrement vrai au niveau local, où leur viabilité est aussi d'une très grande importance au regard de la lutte contre le chômage, puisqu'elle pourvoit énormément à l'emploi. Donc ces entreprises publiques aujourd'hui posent un risque qui est quand même assez important. Elles ont été extrêmement sollicitées pendant la crise sanitaire. Parmi les autres acteurs qu'il faut aussi surveiller pour comprendre la situation actuelle, c'est le secteur immobilier. Et plus spécifiquement encore que le secteur immobilier, le secteur des développeurs immobiliers, le secteur des promoteurs immobiliers, avec des très grands groupes comme Sunac, ou Country Garden, ou Evergrande, ou Longfor, qui ne vous parlent pas forcément, mais qui sont vraiment des entreprises monumentales en termes de taille. Alors, il aura échappé à personne, je crois, l'histoire très récente de ces dizaines, centaines de milliers de propriétaires chinois qui refusent de s'acquitter de leur prêt immobilier, prêt qui est contracté pour des résidences, des appartements, des foyers, dont la construction est aujourd'hui à l'arrêt depuis plusieurs mois. C'est un événement qui n'est pas anecdotique et qui soulève une question eh bien, qui nous renvoie à ce que j'ai évoqué dans mon introduction, à savoir si tous ces propriétaires paient pour un logement qui est en construction, pourquoi est-ce que le chantier est à l'arrêt en fait ? Pourquoi mettre le chantier à l'arrêt ? Et là, encore une fois, la réponse, pour bien comprendre ce qu'il se passe, c'est dans la gestion du risque financier. Le secteur immobilier, traditionnellement en Chine, c'est un des principaux, si ce n'est le principal moteur de la croissance économique. Il représente à peu près 29% du PIB, donc c'est vraiment un important pourvoyeur de richesses et d'emplois. Et historiquement, la frénésie des promoteurs les a conduits à massivement s'endetter, sans trop de tenir compte de la demande réelle, puisqu'aujourd'hui, je crois que c'est une estimation qui date de 2020 ou 2021, un peu moins de 9 familles sur 10 étaient déjà propriétaires et un logement sur 4 était vacant. Donc ils ne tiennent pas compte de la demande réelle. Et par ailleurs, ils ne tiennent pas compte du danger que cet endettement fait peser sur leur propre solvabilité. Le gouvernement a rapidement compris que c'était un souci. Et dès 2020, il s'est décidé à agir. Et pour un peu mettre en évidence la manière dont il a agi, je pense qu'il est intéressant de prendre le cas de Evergrande, qui ne vous est probablement pas inconnu, et de bien comprendre, à la lumière de ce que je viens de décrire, que ce n'est pas la situation de ce groupe, donc ce promoteur immobilier qui s'appelle Evergrande, qui est devenu un problème pour le gouvernement, mais au contraire, c'est le gouvernement qui, en toute connaissance de cause, a adopté une réglementation qui a entraîné l'insolvabilité de cette société. Et je vais expliquer de quoi il s'agit. Donc on est en 2020, et à ce moment-là, la Banque Populaire de Chine, qui a un peu étudié la situation et qui voit qu'une bulle immobilière est en train de se former, décide d'introduire une règle assez simple qui est surnommée, je crois, la règle des trois lignes rouges. Cette règle, elle vise à améliorer la santé financière du secteur immobilier, à réduire l'effet de levier des promoteurs qui s'endettaient beaucoup trop, à améliorer bien la qualité de la dette, à augmenter la liquidité de la dette. Cette règle, elle consiste en fait à évaluer les entreprises les plus importantes du secteur en fonction de trois critères, pour ensuite déterminer dans quelle mesure on va les autoriser à s'endetter sur l'année suivante. Alors les critères, c'est des critères comptables qui ne vont pas forcément vous parler, mais je vais quand même les passer en revue. C'est le ratio entre passif et actif qui doit être inférieur à 70%, c'est-à-dire pour faire simple que les créances en fait, d'un groupe ne peuvent pas dépasser 70% de ce qu'ils possèdent. Le deuxième, c'est le ratio d'endettement net inférieur à 100%. Donc un groupe ne peut pas être endetté au-delà de 100%. Et enfin, le dernier, c'est le ratio entre trésorerie et dette à court terme, qui doit être d'au moins 100% aussi. Et là, pour faire simple, toute société doit avoir suffisamment de liquide pour pouvoir honorer ses obligations à court terme. Typiquement, les effets commerciaux, c'est-à-dire ce qu'elles doivent payer à le terme m'a échappé. À des sociétés de construction, à des corps de métier, etc. Des fournisseurs, merci Kosako. Et donc, on va étudier ces trois critères, et si le promoteur immobilier respecte les trois, il est dans la catégorie verte, et il peut augmenter sa dette de 15% sur l'année qui suit. Très bien. En revanche, s'il ne respecte pas un, deux ou trois critères, il va se retrouver dans les catégories donc jaune, orange ou rouge, c'est le nom des catégories, et le pourcentage auquel sa dette pourra augmenter sur l'année va être réduit à 10%, 5% ou 0% s'il ne remplit aucun des 5 critères. Et donc, quand cette nouvelle mesure est entrée en vigueur, il s'est avéré que seulement 6,3% des promoteurs immobiliers étaient en mesure de respecter tous les critères, et l'une des principales entreprises, qui est donc Evergrande, a immédiatement connu des problèmes de solvabilité, puisqu'elle était dans la capacité en fait, d'honorer sa dette. Elle a directement fini dans la catégorie rouge. À cette époque-là, on est donc en 2020, elle avait à peu près 300 milliards d'euros de dette. Dès le mois de septembre, le groupe va tenter de lancer une espèce de promotion à l'échelle nationale en offrant une réduction de 30% sur toutes ses ventes immobilières. Il va procéder à des liquidations de toutes les branches non immobilières du groupe, puisqu'il avait des branches dans la production de véhicules électriques, dans la vente en ligne, dans les télécommunications. Donc il va liquider ces branches-là pour essayer de dégager du liquide. Et depuis, en fait, le gouvernement va accompagner l'entreprise dans l'assainissement de son bilan comptable. Il va s'assurer qu'il s'acquitte de toutes ses obligations financières, donc notamment les effets commerciaux à l'égard des fournisseurs, c'est-à-dire payer les gens qui amènent du matériel, qui travaillent sur ces chantiers, et s'assurer qu'il rembourse bien la totalité de ses dettes. Alors le feuilleton est assez long et je ne vais pas vous en faire le récit puisque ça me prendrait quand même beaucoup de temps, mais c'est un cas assez intéressant qui nous offre en fait une illustration des stratégies qui sont mises en œuvre à la fois dans la gestion d'une entreprise précise qui pose des problèmes, en l'occurrence Evergrande, mais aussi dans le traitement d'un secteur entier, le secteur immobilier. Après, là, je vous fais le récit de cette société précise, mais pour être peut-être un peu plus optimiste, la situation s'est quand même légèrement améliorée depuis le lancement de cette réglementation. Et en fait, dès 2021, comment dire, les entreprises s'étaient améliorées à hauteur de 90%, 80% sur les trois critères. Donc ça a quand même eu un effet relativement positif. Les entreprises tentent activement de réduire leurs passifs, elles diminuent le montant de leur dette courante, elles deviennent peut-être un peu moins agressives dans leur stratégie d'expansion, elles réduisent l'acquisition de nouvelles terres, voire mettent à l'arrêt les chantiers, d'où eh bien les troubles sociaux que j'ai évoqués en préambule. D'autres entreprises encore vont dégager du liquide en cédant les branches sans lien avec l'activité immobilière. C'était le cas avec Evergrande, qui avait une filière assez importante de véhicules électriques et qui s'en est débarrassée pour sortir à peu près 10 à 15 milliards de dollars, si ma mémoire est bonne. Cette règle-là, elle va rester en vigueur jusque 2023 au minimum, mais le gouvernement continue petit à petit, en fait, de serrer le cadre réglementaire, pas à pas, pas trop vite pour pas non plus étouffer les groupes, mais suffisamment pour essayer d'étouffer la bulle. La Banque populaire de Chine, qui est donc la Banque centrale de Chine, je ne l'avais pas précisé, la Banque populaire de Chine a publié entre-temps un nouveau règlement qui va plafonner les prêts immobiliers que les banques peuvent accorder. De sorte, elle espère contrôler l'investissement immobilier, freiner la spéculation sur les prix du logement. Et une autre directive, me semble-t-il, a très récemment renforcé aussi la supervision dans des domaines connexes en fait à l'activité immobilière, que sont par exemple le courtage ou le logement locatif. Donc là, on voit bien que le gouvernement s'efforce vraiment d'éliminer toute irrégularité sur le marché immobilier, et c'est certainement une tendance qu'on va voir persister à moyen terme. Donc, quand on pose la question de ces grands développeurs immobiliers, de ces grands promoteurs immobiliers, dont Evergrande, on a là en réalité la marque du gouvernement. Il est intéressant de noter donc que la crise immobilière qu'on pense percevoir en Chine a été en réalité volontairement déclenchée par le gouvernement, un peu à la manière d'un feu préventif. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est subi, mais qui est vraiment déclenché à l'avance. Alors, je voudrais maintenant revenir très vite sur les véhicules de financement local. C'est quelque chose qui est. Disons que c'est peut-être l'un des mécanismes les moins connus en dehors de Chine et qui est pourtant vraiment un élément très central dans les finances publiques. C'est que, il faut savoir, pour ceux qui l'ignorent, que la Chine est une des économies les plus décentralisées au monde. En 2021, les dépenses locales, elles comptaient pour à peu près 85 à 86% du budget général de l'État. C'est vraiment énorme. Et bien qu'officiellement, et c'est un peu l'image que tout le monde garde en tête, le gouvernement central a une sorte de pouvoir quasi absolu sur toutes les provinces, sur toutes les villes, sur tous les échelons territoriaux. En réalité, il n'en est rien. Et les échelons territoriaux, les collectivités territoriales sont souvent une source de frustration pour le gouvernement central à Pékin, parce qu'elles agissent dans leurs intérêts propres, souvent au détriment et souvent en contradiction d'ailleurs avec les politiques nationales. Historiquement, le gouvernement a toujours eu plusieurs leviers pour essayer de les rappeler à l'ordre. Ça peut aller de l'inspection par un membre du parti à la nomination de cadres qui ne sont pas issus justement, eh bien, des collectivités en question. Mais ça a toujours été par la contrainte budgétaire qu'il a tenu les rênes. Et pour ce faire, en 1994, et c'est une date très importante, il y a eu une réforme budgétaire de grande envergure, à la fois une réforme budgétaire et une réforme fiscale d'ailleurs, mais là c'est surtout le volet budgétaire qui nous intéresse. Et à travers cette réforme budgétaire, un certain nombre de règles en matière de finances publiques locales sont entrées en vigueur. Et les deux plus importantes sont l'interdiction d'enregistrer un déficit. Donc les villes, les provinces, en tout cas les collectivités locales ne peuvent pas avoir de déficit et elles ne peuvent pas émettre de dette sur le marché financier. Et par ailleurs, pour plusieurs raisons d'ordre réglementaire et politique dans lesquelles je ne peux pas rentrer ce soir, la possibilité de souscrire à un prêt bancaire était longtemps aussi très très limitée, voire interdite. Donc en conséquent, le gouvernement local, qui assume donc la plus grande partie des dépenses publiques, avait des recettes fiscales très limitées. Et pendant plusieurs années, cette différence elle a été comblée par l'octroi d'aides, de subsides de la part de l'État, qui en quelque sorte avait trouvé là en fait le moyen de tenir en fait en laisse ces collectivités territoriales. Sauf que rapidement, il y a un autre moyen de contourner le problème qui a été trouvé, et ce sont ces fameux véhicules de financement local. Alors le fonctionnement, il est relativement simple. Comment ça se passe? Le gouvernement local, que ce soit donc une municipalité ou une province, ou que ce soit un comté, va créer une entreprise privée, qui est une sorte de coquille vide. Il va se rendre propriétaire de cette entreprise, lui ou bien une entreprise publique, ou bien une entreprise privée, ou une combinaison quelconque des trois. Et ensuite, cette coquille vide, qui est le véhicule de financement, va lever des fonds. Parce que comme c'est une société privée, il a la possibilité de lever des fonds. Il le fait soit en contractant un prêt bancaire, soit en émettant de la dette sur le marché financier, peu importe. Les deux options sont relativement équivalentes dans la pratique. Cet endettement, il va se faire à des taux très divers, mais en général quand même au-dessus de ce que propose une obligation d'État chinoise. Et comme par ailleurs, il y a la garantie implicite que le gouvernement local va renflouer, on va dire, cette coquille en cas de défaut, c'est un produit financier qui a énormément de succès auprès des investisseurs, y compris auprès des particuliers, des petits porteurs. C'est une donnée importante pour comprendre pourquoi le gouvernement ne se contente pas de laisser en fait ces coquilles vides disparaître d'elles-mêmes. Alors une fois que l'argent a été collecté, on va l'utiliser pour bâtir des infrastructures, et ça va être le revenu des infrastructures, par exemple le péage d'une route ou le revenu de l'exploitation d'un stade ou d'un aéroport, qui va servir à payer la dette qui était initialement contractée. Et donc une fois remboursé, ce véhicule de financement disparaît et les infrastructures retournent à la propriété du gouvernement local. Alors ça c'est très bien, sauf que dans la pratique, l'activité de ces véhicules, elle s'est considérablement étendue. Elle va du soutien financier au budget du fonctionnement local, donc au budget classique, au budget aux dépenses courantes. Elle va également soutenir des entreprises privées et aussi, et c'est très important, elle va soutenir le marché immobilier. Donc, il y a énormément de véhicules, on va dire comme ça, semi-publics qui vont financer le marché immobilier. Ça contribuera à l'émergence d'une bulle. Et par ailleurs, la taille et l'interconnectivité de ces véhicules a aussi fortement augmenté. Donc ça crée un risque financier qui était déjà élevé dû à la grande opacité, puisque comme ces coquilles vides, on va dire, ne sont pas des entreprises publiques, ne font pas partie de l'État, elles ont très peu d'obligations réglementaires, elles publient très irrégulièrement des rapports financiers, c'est très difficile d'obtenir des informations dessus. Et on a en fait une sorte de passif, on a une dette croissante sur laquelle on a très très peu de visibilité. Alors aujourd'hui, la dette publique de la Chine, qui est de l'ordre de 20,4% du PIB, si on ajoute justement l'encours des gouvernements locaux et surtout ceux de ces véhicules d'investissement, on arrive à peu près 93% en fait du PIB. Donc là, on se rend bien compte que la Chine, c'est un pays beaucoup plus endetté qu'on ne le croit. Et ces véhicules d'investissement sont, il me semble-t-il, le poste le plus important en termes d'endettement. Ils représentent 38 ou 39% du PIB, donc plus que le gouvernement central. En termes nominaux, on est sur 39 000 milliards de renminbi, c'est-à-dire 5 800 milliards d'euros, à peu près. Donc du coup, le gouvernement chinois a cette bombe à retardement entre les mains, et par ailleurs, il a en quelque sorte ouvert la boîte de Pandore, puisque en 2008, pendant la crise financière, pour essayer de limiter justement les conséquences de la crise financière et du ralentissement économique mondial, il a encouragé en fait l'utilisation de ces véhicules. Donc on se retrouve vraiment avec quelque chose d'à la fois très complexe, sur lequel on a très peu de visibilité, et qui est susceptible en fait de sauter au visage de tout le monde à la première occasion. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, et de la toile d'araignée que ces véhicules représentent, alors il en existe à peu près 10 000 aujourd'hui, et ils investissent ou bien indirectement dans plus de 5 000 entreprises, un cinquième de firmes privées par ailleurs. Ils sont liés à plus d'une centaine de banques, à des compagnies d'assurance, à des entreprises de courtage, et plus d'un véhicule de financement sur 6 investit dans un autre véhicule, ce qui contribue donc à l'opacité et à la complexité de ce mécanisme. Et au total, on estime que, alors c'est des chiffres du FMI, hein, mais on estime que l'exposition au reste de l'économie, à l'économie dans son ensemble, est de l'ordre de 12 à 17% du PIB. C'est donc quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique. Alors le résultat, c'est que ces structures posent un risque financier vraiment considérable. Et par ailleurs, dans l'espoir justement d'améliorer la transparence et la clarté des comptes, en vue de maîtriser la menace qu'ils posent, le gouvernement, qui a un peu vu le problème venir, a déjà introduit une nouvelle législation en 2014 qui autorise les préfectures, les villes et toutes les autres collectivités territoriales à s'endetter directement. Et en parallèle, il a interdit à travers cette loi à toute collectivité de s'engager ou d'engager sa responsabilité dans le service de la dette. Donc concrètement, ces véhicules, aucun gouvernement local ne peut s'engager à en rembourser la dette. Bon, après, c'est la Chine, donc l'application effective de la loi elle est encore très modeste, on va dire, très irrégulière, mais c'est quand même une décision qui a contribué à éroder, on va dire, la stabilité de ce secteur. Et encore un point très rapide, tout ce que j'évoque ici est extrêmement interconnecté. Donc, ces véhicules de financement hors bilan impliquent des entreprises d'État ainsi que des promoteurs immobiliers. Ça forme vraiment des alliances très explosives que le gouvernement cherche à drainer au maximum. Alors à côté de ça, il y a donc, j'ai évoqué ici les véhicules de financement, il y a les entreprises technologiques, je crois que c'est un cas assez intéressant, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que c'est aussi un feuilleton assez long, mais il est très intéressant de se pencher dessus. Donc les entreprises technologiques comme Tencent, Baidu ou Alibaba, ce sont de grandes sociétés généralement privées mais tout de même assez liées au gouvernement, qui ont ces dernières années considérablement évolué en termes de taille et surtout en termes d'activité. C'est un problème qui est un peu plus complexe que les autres, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'une augmentation de l'endettement, mais surtout de la diversification des services, et qui a permis notamment au secteur de se soustraire à de nombreuses exigences réglementaires et prudentielles. Je vais prendre l'exemple du groupe Alibaba, qui a été assez mal compris en fait par la plupart des observateurs étrangers. Vous avez peut-être suivi en fait cette histoire de très loin, les péripéties d'Alibaba et de son fondateur Jack Ma, qui était jusqu'il y a peu l'homme le plus riche d'Asie, le plus riche de Chine, et qui a subi en quelque sorte les foudres du Parti communiste. Alors derrière cette histoire, il y a encore une fois un mythe, à mon sens, à chasser, et un mythe qui cache un autre problème qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus inquiétant. L'histoire telle qu'on nous la raconte, c'est que Jack Ma, au cours d'un forum économique à Shanghai, je crois au mois d'octobre 2020 ou 2019 peut-être, plutôt 2019, oui, a fait des remarques assez violentes, assez virulentes en fait à l'égard du Parti communiste chinois, en expliquant que c'était une institution qui n'était plus à même en fait de répondre aux défis que pose l'économie mondiale, l'économie mondialisée, l'économie moderne. Et en fait, à la suite de ce discours, une nouvelle loi est passée, une loi qui a considérablement mis en péril une des filiales de Alibaba qui s'appelait à l'époque Ant Financial Services. Ce groupe, donc cette filiale, devait également être cotée à Hong Kong. Cette introduction en bourse, finalement, a été retardée et ensuite annulée. Et on a évidemment compris que tout ça découlait des critiques qu'il avait émises à l'endroit du Parti communiste chinois. Alors, en réalité, il n'en est probablement rien. Je parle toujours au conditionnel parce qu'il est très difficile, en fait, d'avoir des informations rigoureuses sur le déroulé des événements. Mais il est assez difficile, en fait, à croire que la Chine ait pu introduire une législation en réponse à ces critiques en l'espace de seulement un mois. Ça ne concorde pas vraiment en fait avec le fonctionnement de la bureaucratie chinoise et la lenteur habituelle pour pouvoir produire de la législation. Et surtout, ça dissimule un autre problème qui est précisément celui de cette filiale que je vais évoquer maintenant. Donc le groupe Alibaba, c'est un groupe assez important qui évolue dans de nombreux services. Il est assez connu notamment pour un site comparable à Amazon ou eBay, un site de e-commerce. Et Alibaba a créé donc une succursale, une filiale qui s'appelait Ant Financial Services, qui a été ensuite renommée simplement Ant, et qui est parvenue assez vite à dominer un marché, le marché du crédit à la consommation. Alors, c'est un marché qui est très important. Il s'est reposé sur deux piliers qui étaient d'une part un système de traitement de paiement qui s'appelle Alipay, qui est très connu et qui est très utilisé, et qui est vraiment, on va dire, une des activités de cœur de Alibaba. Il avait été à la base développé justement pour sa plateforme de commerce, il a ensuite été étendu à l'ensemble de la société, c'est un concurrent important de Visa et de Mastercard. Et le deuxième pilier, on va dire, de cette filiale, c'est le crédit. Et il s'est mis à fournir du crédit à la consommation, il s'est mis à fournir du crédit de gré à gré, c'est-à-dire de particulier à particulier. Il s'est mis à offrir des produits d'investissement, des assurances vie, des outils d'évaluation de crédit, des assurances santé, des services de crowdfunding, des services bancaires en ligne, des gestionnaires de traitement de données financières, des logiciels, des suites logicielles diverses et variées. Et en fait, ce qu'on a assez peu commenté, c'est que premièrement, c'était un secteur d'activité très prospère, hein, qui a connu une croissance à deux chiffres vraiment remarquable depuis sa création, je crois, en 2017, avec une croissance annuelle de l'ordre de 60 ou 70%. Son revenu, il a augmenté de plus de 3000%, me semble-t-il. C'est vraiment une société qui a grandi pour devenir un acteur monumental. Si l'introduction en bourse avait eu lieu, cette société, telle qu'elle avait été évaluée par les analystes, aurait été plus importante, aurait été en fait l'institution financière la plus importante au monde. Et c'est toujours aujourd'hui la fintech la plus grande de la planète. Elle aurait été plus importante que toutes les banques occidentales, que toutes les banques chinoises aussi. Et le danger en fait derrière tout cela, c'est que puisqu'il s'agit d'une société technologique et non d'une institution financière ou d'une banque à proprement parler, il n'était pas soumis initialement aux différentes règles en matière, par exemple, de capitaux propres. Et c'est ce qui lui a permis d'apporter pratiquement aucun capital lorsqu'il octroyait des prêts. Et les exigences en matière de ratio de capital étaient vraiment de l'ordre de 0,08%, très exactement. Alors que dans les banques occidentales, ils sont de l'ordre de 8 à 12%, c'est-à-dire qu'on attend au moins 8 à 12%, je crois que c'est 5% d'après l'ancienne législation américaine, de capitaux propres lorsqu'on octroie des prêts. Et ce n'était pas le cas pour cette société, qui est donc devenue vraiment énorme et qui s'est irraisonnablement endettée. Et c'est la raison pour laquelle on a ensuite introduit une législation. Alors le gouvernement a introduit une législation qui a imposé comme exigence que les émetteurs justement de prêts conservent au moins 30% du montant qui est accordé, ce qui a complètement en fait ruiné l'entreprise et ce qui a détruit, on va dire, le business model. Et c'est, disons, cette histoire-là qui est derrière en fait la chute d'Alibaba beaucoup plus que les critiques que son fondateur aurait pu formuler à l'égard du Parti communiste chinois. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais les entreprises comme Baidu ou Tencent étaient en réalité tout aussi concernées par cette émergence d'une sorte d'activité bancaire parallèle, une activité de crédit parallèle. Alors pour régler tous ces problèmes, la Chine elle a développé une gamme assez complète en fait de stratégies publiques, en privilégiant toujours un traitement du problème plutôt en coulisses, assez loin des projecteurs, assez loin des observatoires internationaux. La première solution qui a souvent été privilégiée dans le cas des grandes entreprises qui étaient partiellement ou totalement privées, c'est de prendre le contrôle de la société et ensuite la démanteler en traitant vraiment chirurgicalement le problème. L'administration chinoise est d'ailleurs devenue remarquablement efficace dans la gestion des grandes entreprises insolvables et l'assainissement de leur bilan. Alors comment on procède en fait, quelle est la procédure habituelle? Eh bien, dans un premier temps, l'État va intervenir dans la direction de l'entreprise. Ça se fait souvent, encore une fois, en coulisses, donc on n'a pas immédiatement l'information, mais du jour au lendemain, en fait, la direction effective change. L'État va procéder, en général, au licenciement des cadres supérieurs, des principaux cadres supérieurs. Un groupe de fonctionnaires va ensuite être chargé de diriger la société. D'ordinaire, ce ne sont pas des fonctionnaires anodins, mais plutôt des personnes très spécialisées qui sont détachées ou bien d'organes réglementaires, ou bien de la banque centrale, ou bien de compagnies publiques du même secteur. Souvent, en parallèle, la police va éventuellement arrêter un ou plusieurs responsables et le procureur va les poursuivre pour fraude, ou détournement de fonds, corruption, qui sont des charges assez graves dans le droit chinois qui conduisent rarement à une condamnation de moins de 10 ans de prison. Et une fois que cette direction est aux affaires, elle va procéder à un examen complet, un audit complet des comptes, et ensuite au transfert du secteur principal. Alors ça peut être l'activité immobilière, ça peut être l'assurance, ça peut être une industrie quelconque. Cette activité principale va être transférée vers une nouvelle société qui va être constituée à cette fin. Et ensuite, la direction peut également, s'il le faut, procéder de la même manière et isoler dans une nouvelle société des créances illiquides, indisponibles, sensibles, en tout cas la mauvaise dette, on va dire, de l'entreprise. La direction peut l'isoler aussi dans une autre structure et un gestionnaire, dans ce cas-là, va être assigné à la liquidation en fait, de ces créances. Alors souvent, c'est un gestionnaire qui est spécialisé dans l'extinction de mauvaises créances. Il en existe plusieurs, que vous connaissez peut-être Warang, et une compagnie assez connue, ou Sinda China. Ce sont des sociétés qui ont été créées à l'occasion de la crise bancaire de 1997. Donc, une fois qu'on a procédé à cette restructuration initiale, la priorité, ça va être d'honorer les obligations financières du groupe. Alors, ça va être en particulier vis-à-vis des créditeurs étrangers. La Chine est particulièrement pointilleuse sur le maintien d'une bonne qualité de signature, y compris pour le secteur privé. Donc, elle va vraiment tenir compte des obligations qui vont tomber en termes de paiement de dettes, de paiement de prêts. Elle tient aussi compte de l'exposition des particuliers, puisque je vous ai expliqué que les particuliers chinois étaient très actifs en fait, hein, sur le marché boursier. Ils cherchaient très régulièrement des produits de placement en fait, pour leur épargne. Donc, elle va tenir compte de cette exposition pour imposer une certaine orthodoxie dans le paiement et l'extinction des prêts et obligations que la société a pu émettre. Alors, c'est moins vrai pour les actionnaires. En général, les actionnaires, ils profitent rarement d'une indemnisation. Ils sont souvent perdants dans cette opération. C'est une phase qui implique une injection de capitaux et c'est à l'occasion de cette injection de capital que l'État va vraiment entrer au capital de la société. Il va vraiment prendre le contrôle réel et officiel de la société. Parfois, il fait intervenir des tiers. Alors souvent, ça va être un fonds de garantie. Par exemple, dans le cas de Anbang, qui est une grande holding privée ayant fait faillite, c'était le fonds de sécurité lié aux assurances, aux compagnies d'assurance qui est entré au capital. Parfois, ça va être des compagnies publiques, en général des compagnies qui sont intéressées par l'absorption de certaines parties du groupe, de certaines branches. Une fois que la solvabilité de la société est restaurée, l'administrateur va procéder à la restructuration complète en vue de mettre en vente les différentes branches. Il va distinguer d'un côté les secteurs selon leur niveau de sensibilité, par exemple pétrole, nucléaire, gaz naturel, défense aéronautique, tout ce qui ne peut pas vraiment être privatisé va être mis d'un côté et ça restera public. Et de l'autre, il va mettre les branches qui présentent un intérêt stratégique moindre. Il va ensuite évaluer le patrimoine immobilier de l'ensemble des participations financières et l'ensemble des participations financières à liquider pour réduire justement la taille du bilan. Alors typiquement, si vous avez par exemple des grandes holdings, j'ai évoqué Anbang, il y en a d'autres comme Wanda ou Fosun ou HNA, ce sont des holdings privées qui ont été très actives justement grâce à l'endettement, très actives sur le marché international. C'est des sociétés qui ont acheté par exemple le Club Med ou qui ont pris de fortes participations dans la Deutsche Bank, qui ont acheté des hôtels, le Ritz-Carlton, etc. Donc ça, ce sont des acquisitions qui n'intéressent pas le gouvernement chinois et qui va progressivement en fait remettre en vente pour pouvoir dégager des liquidités. Une fois que c'est fait, et la plupart du temps d'ailleurs, la partie de la société qui a vocation à rester privée va être mise aux enchères. Elle va être mise aux enchères par tranche. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement donner le contrôle de la société à une autre entreprise privée, mais on va plutôt opter pour un actionnariat partagé entre 3, 5, 6, 7 actionnaires d'envergure, dans le but de limiter en fait les problèmes de gouvernance. On peut aussi pousser à introduire en bourse cette société ou une partie de la société pour encore une fois augmenter la surveillance et augmenter les exigences réglementaires qui seront applicables. Si la société est cotée par exemple à la bourse de Hong Kong, alors dans ce cas-là, l'autorité de Hong Kong a une vue plus importante sur ce que fait la société. Et donc, une fois que la restructuration est terminée et que l'État a récupéré le capital qu'il a injecté, il va achever en fait le transfert des différentes branches, fermer les structures légales qui avaient été créées à cet effet, les structures de transition, et formellement se désengager du groupe. Donc ça, c'est un choix qui a souvent été adopté. Il a été adopté pour le groupe Anbang, il a été adopté pour d'autres groupes. Je pense que c'est une solution qui sera très certainement envisagée pour Evergrande, donc le promoteur immobilier en détresse dont on a beaucoup entendu parler dans la presse. Ce que je viens de décrire là, c'est aussi une stratégie qui peut être adoptée au niveau sectoriel. Et là, on a eu un bon exemple avec la crise financière de 1997 et qui pourrait justement nous informer sur ce que la Chine, renseigner sur ce que la Chine envisage pour un certain nombre de secteurs, notamment le secteur immobilier. Alors, ce qui s'est passé à la fin des années 90, c'est que beaucoup de banques étaient confrontées à une forte augmentation de prêts, ce qu'on appelle les prêts non productifs, hein, c'est-à-dire des prêts où les échéances, où les paiements ne sont plus réglés à temps, et en particulier de la part d'entreprises d'État d'ailleurs. Les pertes liées à ces créances étaient si importantes que, en fait, à cette époque, donc en 97, les plus grandes banques du pays étaient virtuellement toutes insolvables, elles étaient toutes en faillite. Et face à la perspective d'une crise financière, le gouvernement a mis en œuvre donc un plan de restructuration massif, assez comparable à ce que je viens de décrire. Le ministère des Finances et la Banque populaire de Chine ont décidé d'injecter beaucoup de capitaux dans les principales banques du pays. et on a créé des sociétés. En fait, on a créé une société par banque qui avait à sa charge toutes les créances liquides, tous les prêts toxiques, et qui avait la charge en fait de les éteindre. Donc, par exemple, Warong est un de ses héritiers. Donc, les banques, elles ont été restructurées. L'État a sollicité des investisseurs étrangers pour améliorer la rentabilité opérationnelle, pour améliorer la gouvernance. Et finalement, on les a toutes fait introduire en bourse, notamment la bourse de Hong Kong notamment, mais pas seulement celle-là, pour lever encore des capitaux et améliorer la surveillance au quotidien. Donc, c'est vraiment une approche sectorielle qui est souvent utilisée. Elle consiste aussi à traiter la fragilité d'un secteur entier en adoptant une nouvelle réglementation, en général plus sévère, et qui impose aux acteurs de réduire leur exposition à un risque précis. On a vu avec les promoteurs immobiliers, c'est un très très bon exemple. Mais ça a aussi été le cas très récemment avec les banques, qui ont été contraintes de relever leurs capitaux propres, qui ont été obligées d'abandonner des secteurs, des services par exemple parabancaires ou des services de shadow banking, de finances parallèles, qui ont été obligées de déduire des créances douteuses qui se cachaient dans leur compte, hein, parce que quand un prêt cesse, on va dire, d'être remboursé, on n'est pas obligé en fait de le radier immédiatement des comptes, on peut le laisser traîner en invoquant une valeur résiduelle, ce qui permet en fait de grossir en fait oui, grossir, c'est le terme, de grossir en fait le bilan alors que derrière il y a plus aucune valeur réelle. Donc l'autorité réglementaire les a forcés en fait à radier ces créances douteuses, qui faussaient le bilan. Et c'est comme ça en fait qu'entre, j'ai les chiffres ici, entre 2016 et 2021, on a eu une augmentation de capital net qui est de l'ordre de 12 000 milliards de renminbi. L'encours du crédit qui est lié à la finance parallèle au shadow banking a diminué de plus de 5 000 milliards. Et les banques ont radié à peu près le même montant de créances douteuses de leur compte. Donc il y a vraiment une politique d'assainissement qui est mise en œuvre. Et c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas trop l'impression en fait que le gouvernement cherche à stimuler l'endettement, à stimuler le prêt pour pouvoir résoudre la crise économique qui se profile devant nous. Alors, dans le même esprit, parfois le gouvernement va jusqu'à tuer des industries qui sont naissantes. Ça a été le cas de l'industrie du prêt de gré à gré. Alors, le prêt de gré à gré, pour faire simple, c'est des applications, souvent des applications sur smartphone, qui mettent en relation des créanciers et des emprunteurs. Donc, en gros, des particuliers se prêtent entre eux sans le concours d'une banque. Donc, ça a été particulier aux professionnels. Ça a été tué dans l'œuf, en fait, par l'autorité réglementaire. Ou encore le cas bien connu des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont été totalement balayées de Chine. Donc, comme toujours, elles continuent d'exister malgré tout, hein, mais officiellement, la loi les interdit. Et évidemment, le cas du secteur immobilier que j'ai évoqué avec Evergrande. Alors, une troisième option que j'ai envie d'évoquer aussi avec vous ce soir, je vois que le temps passe, je vais essayer de faire vite, c'est lorsqu'un changement réglementaire ne suffit pas à éviter cette détresse financière. Il arrive aussi que le gouvernement intervienne pour organiser une acquisition ou une injection de capital par d'autres entreprises, publiques ou privées. Alors, l'objectif, c'est d'éviter une faillite qui pourrait, encore une fois, avoir des répercussions plus larges sur un secteur ou sur l'économie en général. Ces faillites sont souvent l'occasion pour l'État de reprendre le contrôle d'industries stratégiques ou sensibles. Les entreprises privées ou les entreprises partiellement privatisées sont soumises à un contrôle plus ferme de la part du gouvernement. L'idée, c'est que le financement de l'entreprise en difficulté va provenir, alors généralement d'entreprises publiques, bien d'un fonds souverain, d'un fonds public, d'un fonds d'investissement public, ou bien d'un des gestionnaires de dette dont j'ai parlé, Warong et compagnie, qui vont donc agir en tant que mandataires du gouvernement chinois pour mener à bien la restructuration. Ou alors, dans ce cas-là, ça peut aussi être des entreprises privées qui vont être, entre guillemets, persuadées par l'État de fournir des fonds, souvent sous le prétexte d'un service national. On va dire qu'on rend service à l'État en allant prêter des fonds à une société en difficulté. Les sociétés qui sont en fait soumises à cette espèce de mariage arrangé vont pouvoir poursuivre leur activité sous la forme préexistante, mais avec un contrôle différent. Ou alors, dans d'autres cas, elles peuvent aussi être reconstituées en une entité totalement nouvelle. Et parmi ces exemples de mariage forcé, il y a par exemple Tsinghua Unigroup, qui est un brasseur de bière très connu. C'est le principal brasseur mondial, je crois, après AB InBev. China Unicom ou le constructeur de véhicules électriques NIO. Alors, le cas de NIO, il est assez intéressant. Je pense que ça mérite qu'on s'y attarde une minute ou deux, puisque l'industrie des véhicules électriques est depuis longtemps un secteur très stratégique, un secteur clé pour le gouvernement de Beijing. C'est un des 30 domaines du plan Made in China 2025, et le gouvernement a fixé des objectifs nationaux pour les ventes de véhicules électriques. Il est vraiment très engagé sur ce terrain-là. Donc, NIO, évidemment, était une société qui coche tous les critères que j'ai évoqués plus tôt. C'est un des constructeurs, vous ne connaissez peut-être pas l'entreprise, hein, c'est un constructeur de véhicules électriques qui est souvent qualifié de Tesla chinois parce qu'il a une forte capacité d'innovation, il a une forte capacité de développement. C'est une société qui a été fondée, je crois, en 2014, qui a profité des très nombreux subsides de l'État, qui a profité d'un environnement financier assez léger, assez intéressant pour s'endetter et se développer bien au-delà de ce que ses performances financières lui permettaient. Tout comme Tesla, en réalité, il n'a jamais trop en fait enregistré de bénéfices. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, le gouvernement s'est toujours en fait avec cette idée de risque financier, s'est un peu inquiété à la fois de la saturation des producteurs de véhicules électriques, il y en avait de plus en plus sur le marché, et des dépenses de plus en plus élevées qui étaient liées aux aides. Donc il a commencé à réduire la voilure, et la réduction des subsides, en particulier les aides à l'achat, ont entraîné une chute des ventes et donc la faillite de nombreux constructeurs, dont NIO. Et c'est donc là que le mariage va se produire, qu'en 2020, toujours sous l'égide de l'État qui reste tout puissant, NIO va recevoir un renflouement assez conséquent de la part d'un consortium d'entreprises publiques, des entreprises publiques qui sont toutes liées à une province, la province d'Anhui. Dans le cadre de cet accord, NIO donc va continuer de faire ce qu'il fait, à savoir produire des véhicules, mais son siège va être déplacé de Shanghai vers un parc de développement dans la province concernée, à Anhui. Et l'histoire reste heureuse puisque le groupe va assainir son bilan et va redevenir dès 2022 une des principales entreprises du secteur, avec des performances financières et industrielles assez bonnes. Mais ça marque encore une fois un bel exemple de la souplesse de l'État en matière de politique industrielle. Alors, je vois que l'horloge tourne, je n'avais pas prévu de parler aussi longtemps. Pour conclure et ensuite vous laisser poser des questions, je dirais simplement, pour revenir à la question qui nous intéresse, à savoir la perspective d'une récession, je dirais simplement que le gouvernement s'est vraiment accordé en fait au fil des années des ressources financières et politiques considérables pour éviter cette récession, qu'il a su donner des gages à travers tous ces exemples de sa capacité à traiter de véritables bombes à retardement. Ça nous montre aussi, puisque la notion d'un risque financier a émergé dès 2014, ça nous montre aussi que le problème n'est pas nouveau et a pu être pensé en amont. Alors, il n'aura pas forcément été pensé à temps, ça ne sera pas forcément une bonne réponse, mais en tout cas, le problème est traité depuis assez longtemps, et c'est une constante hein, dans l'histoire moderne. La Chine a su observer assez attentivement les problèmes qui ont pu se produire ailleurs. Elle a tiré les leçons de sa propre crise bancaire de 1997, elle a tiré les leçons de la crise de 2008, elle a tiré les leçons de la décennie perdue japonaise dans les années 90. Mais pour autant, il ne faut pas non plus ignorer que la situation est quand même plus précaire qu'elle ne l'était dans le passé, à savoir que la croissance économique ne permet plus en fait d'absorber des dépenses considérables. Les mesures qui ont été adoptées dans le passé ont aussi contribué à accentuer des défaillances structurelles préexistantes. Là, je prends pour exemple le coût énorme de la restructuration des banques lors de cette fameuse crise asiatique de 1997, qui finalement n'a pas non plus permis de redresser durablement le bilan des banques. La plupart, elles continuent d'être cotées en bourse très en dessous de leur valeur comptable, ce qui en fait signifie en quelque sorte que les investisseurs ne pensent pas que la valeur des actifs, la valeur réelle des actifs, soit au niveau de celle qui est inscrite dans les livres de compte. Les banques, elles continuent de prêter à des entreprises d'État inefficaces, qu'on appelle des zombies hein, dans le langage commun, et les compagnies de gestion qui sont chargées de liquider les mauvaises créances, comme Warang, n'ont pas disparu en fait une fois que leur mission était accomplie, et elles se sont développées au point de devenir des grandes institutions financières non bancaires. Et elles sont elles-mêmes aujourd'hui en difficulté, elles sont elles-mêmes aujourd'hui des sources de risques. Alors en plus, dans ces circonstances, la crise sanitaire et les différentes mesures restrictives mises en œuvre pour lutter contre la propagation du virus ont vraiment contribué à dégrader l'état des comptes. Et il ne faut pas non plus oublier, je vous le rappelle, que le mois prochain se tiendra aussi le congrès du Parti communiste chinois. Et c'est durant cet événement qu'a lieu l'élection du président. Alors de ce fait, il y aura probablement un troisième mandat pour Xi Jinping, ce ne serait pas une grande surprise, mais c'est aussi l'occasion d'un renouvellement du parti, et notamment du puissant comité permanent du bureau politique du Parti communiste, qui est le Politburo, hein, qui est en fait l'organe qui dirige effectivement le pays au quotidien. Donc le risque politique il vient contribuer à une situation qui est déjà assez explosive. Et il faut donc, je crois, à la lumière de toutes ces données, peut-être s'abstenir de prendre un pari trop tranché sur le devenir de cette économie. soit un pari optimiste ou plutôt pessimiste. Bon, je vois qu'il est déjà 22h, donc j'espère modestement avoir pu apporter un peu de clarté sur l'état de la Chine. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, et merci à tous de m'avoir écouté.
Il n'y avait pas une personne qui voulait parler des semi-conducteurs là-dessus?
Je crois qu'on l'a perdu en cours de route.
Et puis il y a toute une série de questions qui est apparue suite à l'exposé de Tim, donc on va le laisser boire, puis après on va voir comment ça se déroule.
Elles sont où les questions?
Tu as un fil qui s'appelle Question Livre Blanc qui est déroulé suite parallèlement à ce chat Livre Blanc. Tu le retrouveras dans le chat Livre Blanc.
Ok, merci.
Cap s'en occupe.
Voilà. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait un fil avec les questions. Je vais les lire avec attention. Alors, pour ce qui est des chiffres, je pourrais éventuellement vous faire une liste de sources que j'ai à disposition. Malheureusement, je ne les ai pas forcément là sous la main dans l'immédiat. Si vous voulez que je donne des sources sur un élément très précis, je peux peut-être vous le fournir assez vite.
Ça, c'est moi la question. C'est pas dans l'immédiat. Par contre, j'ai trouvé ton livre blanc plutôt intéressant. Quand je vais en discuter, très rapidement, j'aurai la question de d'où sortent ces informations. Pour pas forcément remettre en doute ce que tu as pu exprimer, mais tout simplement pour mieux comprendre et se faire son propre avis.
Alors, les sources, elles sont de deux types. Hein. Les sources vraiment les plus fiables, soit ce sont des données officielles. J'ai évoqué plutôt le Bureau national des statistiques, qui est en quelque sorte l'équivalent de l'INSEE, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est assez ouvert, en fait, et assez transparent sur les données économiques de la Chine. Donc, on peut aller simplement sur le site et avoir accès à un grand nombre de sources. Souvent, c'est la source primaire pour toutes les autres sources, type INSEE, justement, ou FMI, ou ce genre de choses. Le ministère des Finances aussi offre des sources assez intéressantes. Il y a beaucoup de fournisseurs privés de données qui contribuent aussi à éclairer en fait les différentes questions économiques. Je pense à Bloomberg, à Capital IQ, qui est aussi un gros fournisseur de données. Le FMI fait des rapports qui sont assez bons, alors, bon, toujours orientés avec la patte du FMI, mais pour autant qu'on sait la reconnaître, ce sont des sources assez intéressantes. Il publie des rapports assez régulièrement sur l'état de l'économie chinoise, dans lequel on retrouve à peu près tout. Après, pour les sources qui sont plus des sources d'ordre qualitative et pas quantitative, essentiellement, ça va être la presse locale. Donc, il y a une agence de presse nationale chinoise qui publie régulièrement des sources. Il y a China Daily, qui est aussi un journal assez complet en fait, sur la question, en sachant toujours que ce sont deux organes, pas publics, enfin, ils sont publics en fait, hein, mais ce sont deux organes en tout cas très proches du parti au pouvoir. Donc, on ne va pas y trouver non plus des informations très contestataires. Pour autant, on retrouve quand même des informations factuelles assez nombreuses. Il y a des journaux chinois ou plutôt périphériques à la Chine, notamment à Hong Kong, qui sont assez intéressants et qui publient des informations un peu plus nuancées, on va dire, un peu plus neutres. Il y a beaucoup d'organes aussi de recherche. Alors malheureusement, c'est des organes généralement privés et assez chers qui publient du renseignement de l'intelligence économique. L'un des plus importants, c'est Gafcal Research, qui publie notamment des informations dans une série qui s'appelle Dragonomics, qui est aussi très très à jour sur l'état de la Chine. Encore une fois, malheureusement, c'est un groupe privé. Et puis du reste, c'est des informations qu'on peut trouver vraiment dans n'importe quel journal. Là où je serais, où je me permettrais de mettre peut-être un avertissement, c'est vraiment sur la qualité de l'analyse. C'est-à-dire que les informations en elles-mêmes, on peut les trouver sans trop de difficultés, même dans des journaux français, francophones, mais la qualité de l'analyse, souvent, elle laisse à désirer. On va rarement trop... En fait, on est souvent confronté à des journalistes qui ont vraiment très très peu de connaissances de la Chine, qui sautent à des conclusions qui ne sont pas forcément les plus évidentes et qui n'ont vraiment pas une connaissance pratique en fait, de la manière dont la Chine et l'économie chinoise fonctionnent. La Chine, et c'est là qu'on voit que c'est un pays qui est très étranger au nôtre, une culture, une civilisation qui est très étrangère à la nôtre. C'est un pays qui formalise extrêmement peu en fait, son fonctionnement. C'est-à-dire qu'une loi peut être appliquée. Déjà, la loi peut prendre des formes qui ne sont pas les mêmes formes que chez nous. J'ai évoqué le Politburo, qui est donc l'organe officiel, un des organes officiels du Parti communiste chinois. C'est un organe qui est en troisième position dans la hiérarchie et qui, malgré tout, est le plus important. Donc, voilà, il y a, si vous voulez, une incohérence, on va dire, constitutionnelle qui ne choque personne. Du fait de sa prééminence, c'est un organe qui, lorsqu'il publie un avis, l'avis a valeur de loi, alors que ce n'est pas une loi sur le plan légal. Les lois en elles-mêmes ne sont pas forcément appliquées ou mal appliquées. Il arrive aussi que des lois se contredisent. Donc, des organes comme la Populaire de Chine vont publier des sortes de directives qui permettent de guider les gens en fait, dans la lecture des lois. Le périmètre ou l'application de la loi peut évoluer au fil du temps. Tout ça, c'est des choses qu'on a un peu du mal à comprendre en tant qu'occidental. Et malgré tout, c'est quelque chose d'absolument quotidien en, fait, en Chine. Et c'est aussi vrai dans le paysage politique. Quand on dit par exemple que la Chine est un pays où il n'y a pas de politique à proprement parler, puisqu'il y a un parti unique, c'est en fait mal comprendre le fonctionnement. La diversité politique en Chine, elle s'exprime à l'intérieur du parti. C'est-à-dire, ce ne sont pas des partis comme, bien chez nous, on va avoir le PS, l'UMP, qui vont concourir à des élections, ça n'a rien à voir. Les tendances, en fait, vont s'exprimer à l'intérieur du parti, via des courants, via des écoles, via des luttes de pouvoir internes, sur lesquelles on n'a pas toujours beaucoup de visibilité, mais qui existent et qui traduisent vraiment, parfois même une réelle alternance entre le gouvernement de Hu Jintao et celui de Deng Xiaoping et celui de Xi Jinping. Il y a des divergences vraiment très importantes, hein, des approches doctrinales qui sont très différentes, une relation à la situation de Taïwan, de Hong Kong, à la question de la religion qui est très différente. Et ça cette diversité-là, elle existe et elle a lieu vraiment au quotidien. Mais si on s'en tient à l'idée qu'il n'y a pas de diversité politique parce qu'il n'y a qu'un parti, c'est vraiment mal comprendre en fait la situation. Donc il faut faire très attention, je crois, quand on cherche des informations, à l'analyse que certains journalistes, voire même des spécialistes, hein, revendiqués en font. Souvent, il y a des erreurs, à mon sens. Mais les faits, après, on peut les trouver. Si on lit Le Figaro, on peut trouver des faits tout à fait exacts.
Merci. Du coup, souhaites-tu de l'aide pour le déroulé des questions ou
Je lis ça, je vais lire ça. Alors, je lis déjà, je pourrais probablement pas répondre à toutes les questions, je suis pas non plus un spécialiste émérite du sujet. Alors, la position internationale des investissements est à plus de 13%. Alors, ce n'est pas tant un signe de bonne santé financière que la continuité, je réponds à la question de Deep Berry, que la continuité en fait, de politiques qui ont été menées dans le passé, c'est-à-dire que la Chine, pour des raisons qui sont économiques, mais surtout en fait, stratégiques, a mené des politiques très, très agressives, très pugnaces à l'étranger, notamment à travers l'initiative des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie, que j'avais déjà évoqué ici il y a quelques années, me semble-t-il, il y a 2 ou 3 ans. Et dans le cadre en fait, de cette initiative, elle a considérablement réduit le montant de ses investissements, mais elle doit malgré tout rester très active, très très active sur ce volet-là. Donc ça explique aussi la raison pour laquelle elle maintient en fait, un investissement international assez important, notamment des investissements directs. Elle a cette obligation, et elle a en fait une double obligation dans le sens où moi elle-même que ces deux principales banques d'investissement publiques, elle s'est engagée énormément en fait en prêts et en lignes de crédit. C'est-à-dire que si des pays, on a un exemple très récent avec le Sri Lanka, si des pays comme le Sri Lanka, par exemple, ne sont pas dans la capacité d'honorer leurs engagements financiers, ça peut aussi considérablement peser sur le bilan de Chine. Donc il a tout intérêt en fait à maintenir une sorte de ligne de flottaison à l'international. Je sais d'ailleurs qu'il y a eu un documentaire, je crois, de la chaîne Parabellum qui m'a semblé rentrer dans la case des mauvaises analyses, mais on va peut-être pas en parler ce soir. Ne sommes-nous pas endettés nous-mêmes vis-à-vis de la Chine? Tu ouvres vraiment des grosses questions, l'asilote. Alors oui et non. Il faut savoir qu'effectivement, la Chine est un important débiteur, un important créancier, on va dire, de l'Occident de manière générale. C'est un pays qui investit énormément dans la dette américaine, dans la dette française, essentiellement dans la dette américaine, en fait. Mais la raison pour laquelle il investit dans cette dette ne tient pas à une volonté de rentrer au capital, entre guillemets, des États-Unis, ce qui n'aurait d'ailleurs pas de sens. Une obligation n'est pas une action, donc elle ne donne pas de droit sur la conduite des affaires, encore moins celle d'un État. La raison pour laquelle la Chine investit autant en fait de la dette américaine, et c'est vrai aussi pour l'Arabie Saoudite, c'est vrai pour le Japon, c'est tout simplement qu'elle a énormément de commerce, elle a une balance commerciale très excédentaire avec ces pays-là. Donc quand la Chine va par exemple vendre, je dis la Chine, mais c'est aussi des entreprises chinoises, quand une entreprise chinoise va vendre, je ne sais pas, des panneaux solaires à la France, elle va les vendre en euros, donc elle va récupérer des euros, et malheureusement ces euros, elle ne va pas en avoir forcément un usage immédiat. Et comme la balance commerciale est très excédentaire, elle accumule en fait énormément de devises étrangères, dont elle n'a pas vraiment d'utilité. Donc plutôt que de les laisser traîner dans des comptes, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va acheter en fait des obligations d'État qui sont des placements à la fois sûrs et dont le rendement est un peu plus élevé en fait que le liquide. C'est la seule raison pour laquelle en fait elle investit donc de la dette française ou de la dette américaine. Ça ne tient pas à une volonté stratégique ou que sais-je. C'est vraiment une pure opération comptable, si on pourrait dire ça comme ça. Simplement comme elle commerce énormément avec les États-Unis, donc elle a beaucoup de dollars, elle ne sait pas quoi en faire, donc elle stocke en fait son dollar dans des obligations d'État, tout simplement. Ce qui relativise d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais ce qui relativise aussi le risque, et ça met encore une fois en évidence la mauvaise analyse de certains journalistes, c'est une situation qui relativise aussi le risque que la Chine instrumentalise ou militarise en fait cette dette, dans le sens où, puisque c'est un mécanisme comptable qui lui est imposé en fait par la nature même de son commerce qu'elle a avec nous, non seulement elle ne peut rien faire de cette dette, elle ne peut pas la militariser, mais elle n'est même pas en capacité de la vendre. C'est-à-dire la Chine ne peut pas liquider la dette américaine du jour au lendemain. Il n'y aurait pas assez de liquidité disponible, donc c'est même pas envisageable en fait. Alors par contre, la deuxième question sur la balance, j'ai pas de réponse, mais le FMI a publié des chiffres assez récemment, jusque 2020 ou 2021. Je dois les avoir quelque part, donc je vais les publier dès que je les retrouve. Je crois que c'est plus simple. Encore une question, et la fausse qu'il m'est compliqué de répondre. Avec quelle régularité le Parti communiste fait-il passer des lois sur mesure pour sanctionner des entreprises déraisonnables, comme Alibaba? Ça arrive assez rarement, en fait. Ça arrive assez rarement, puisque j'ai peut-être présenté de manière très élogieuse le fonctionnement du Parti communiste, le fonctionnement de la Chine, de l'administration chinoise, mais ça reste une administration publique, et les lois, enfin en tout cas l'activité législative est assez lente. Donc, à supposer vraiment qu'un capitaine d'industrie se montre un peu trop critique vis-à-vis du gouvernement de Xi Jinping, la réponse ne sera a priori pas une loi au sens où on l'entend, mais plutôt une action discrétionnaire de la part par exemple d'une autorité réglementaire sur les actifs de cette personne. Donc si par exemple quelqu'un se montre très critique, on va peut-être mettre la main sur sa société ou sur les parties de sa société qui se trouvent en Chine, voire procéder, et c'est malheureusement très fréquent en fait avec la Chine, voire procéder à des enlèvements. Et donc souvent, par exemple, un cadre ou un capitaine d'industrie qui vit par exemple au Canada et qui se montre très critique vis-à-vis de la Chine, Si par hasard il passe à Hong Kong ou à Singapour, on va le faire disparaître en fait. Et il va réapparaître à Pékin ou à Shanghai. Ça, malheureusement, la Chine s'est montrée assez efficace aussi dans ce type de stratégie. Alors, une excellente question sur l'impact du changement démographique chinois sur son économie. Donc, effectivement, la Chine est dans une situation démographique assez précaire puisque elle a quand même un indice de fécondité assez bas et une population assez vieillissante. L'idée, bon, j'ai pas de chiffres précis en tête, mais je rappelle en fait l'estimation que j'avais déjà évoquée qui, moi, me semble assez éloquente. C'est à peu près 9 personnes sur 10, 9 foyers sur 10, 9 familles sur 10 qui sont déjà propriétaires et un logement sur 4 qui est vacant. Donc, concrètement, on est dans une situation où il y a déjà, en fait, à la lumière de l'offre, il y a déjà une saturation du marché immobilier. Question sur le yuan. Alors là, malheureusement, je vais m'exprimer, je crois que c'est X qui a posé la question, je vais m'exprimer avec énormément de pincettes parce que c'est un sujet que je ne maîtrise vraiment pas très bien, mais me semble-t-il que cette innovation n'est pas à proprement parler une crypto-monnaie au sens conventionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de blockchain, enfin, il n'est pas question de validation par bloc ni de décentralisation, c'est simplement une monnaie strictement numérique. Elle ne correspond pas à une émission métallique. Ses implications en termes de surveillance de la population, je ne suis pas sûr qu'elles soient importantes dans la mesure où la population est déjà quand même assez surveillée. Et la Chine est un des pays qui fait le plus usage de son téléphone pour payer. Vous savez, il y a cette idée qu'il y a un décalage entre l'Est et l'Ouest et il y a toujours une technologie qui est sautée. Et en l'occurrence, je crois que c'est assez visible. Si certains d'entre vous ont déjà voyagé en Asie, les cartes de crédit sont assez peu utilisées et le particulier préfère utiliser son téléphone. Il y a énormément d'applications, type Alipay par exemple, qui permettent de payer avec le téléphone. Et c'est un instrument de paiement qui est vraiment très majoritaire, hein, qui est de l'ordre, me semble-t-il. Alors, je n'ai pas les statistiques sur les yeux, mais je crois que c'était de l'ordre de 80% des paiements qui sont effectués par ce moyen-là. Donc, ça laisse très peu de place quand même au liquide et la surveillance, de fait, est potentiellement totale. Dans des pays comme la Chine, le Japon, alors le Japon un peu moins, l'Inde, me semble-t-il, les paiements par téléphone sont vraiment majoritaires et très importants. Je lis la suite. Ah mince, j'ai perdu la liste des questions. Voilà. Alors, Xi Jinping, c'est une question de l'outre-poutre. Xi Jinping purge-t-il régulièrement le Parti communiste chinois à raison des liens de corruption qui lient un grand nombre de cadres du parti avec ses holdings? Ou est-ce plus un calcul politique pour un prochain mandat? Alors clairement, c'est une combinaison des deux. Il serait naïf de penser que c'est une simple opération d'utilité publique. C'est évidemment une combinaison des deux. Pour autant, il y a vraiment des gros problèmes, ça rejoint aussi la question de l'IFAX, il y a vraiment de gros problèmes de corruption en Chine, et notamment au niveau local. C'est là où les problèmes sont les plus importants. Il y a eu des affaires qui ont vraiment défrayé la chronique, bah, notamment, je l'ai évoqué, hein, tous ces directeurs d'entreprise, des grandes holdings qui ont été condamnés. Ça a été le cas pour Anbang, ça a été le cas pour HNA, ça a été le cas pour beaucoup de sociétés qui ont été condamnées à des peines assez lourdes pour des faits de détournement de fonds ou des faits de fraude. Il y a aussi eu plusieurs ministres d'ailleurs, qui ont été condamnés à mort, hein, puisqu'on peut être condamné à mort en Chine pour corruption. C'est un délit, c'était une infraction extrêmement grave. Notamment le ministre des chemins de fer qui avait été condamné à mort pour corruption et détournement de fonds. Pour autant, derrière ces affaires très publiques, la corruption, elle est surtout au niveau local. Et le poids, l'impact de la corruption dans l'économie chinoise, alors je ne suis pas en mesure de la chiffrer, je ne crois pas qu'elle ait été chiffrée, mais l'impact est significatif dans tous les cas. J'avais évoqué plus tôt le fait que la Chine soit un pays très décentralisé malgré les apparences et que les collectivités territoriales freine ou frustre, on va dire, les politiques nationales, la corruption en fait partie. Souvent, la corruption nuit à l'application de la politique publique, nuit à l'application de la politique industrielle. C'est la source, notamment, de problèmes dans ce qui est du contrôle qualité. C'est des bâtiments qui ne sont pas aux normes, des entreprises qui ne produisent pas de l'acier de bonne qualité, ce genre de choses. Alors, c'est un problème monumental, hein, on l'imagine en entier, puisque de fait, on se retrouve avec des trains à grande vitesse ou des avions qui ne sont pas aux normes, enfin qui sont construits dans des matériaux de mauvaise qualité, on se retrouve avec des bâtiments qui s'effondrent au moindre problème. Là, clairement, c'est une des priorités, on va dire, du gouvernement central, mais il a très très peu de marge de manœuvre dessus. C'est un changement de mentalité qui se fait petit à petit. Alors, dans les chiffres, j'ai déjà évoqué cette question, me semble-t-il. Alors, existe-t-il un équivalent comparable à ces mesures d'assainissement dans le monde occidental? Alors, des modèles vraiment identiques, non. Pour des raisons très simples, hein, c'est que les gouvernements occidentaux, les administrations occidentales sont évidemment soumises à un état de droit, on va dire, plus formel, plus sévère, plus strict. Donc le gouvernement ne peut pas simplement rentrer dans les entreprises et prendre le contrôle. Pour autant, oui, il y a certaines stratégies qui ont été employées, notamment dans le cas de la crise financière. Prendre un exemple parmi d'autres, un groupe comme par exemple la Deutsche Bank, qui a énormément de créances douteuses qui datent justement de 2008, avec des produits financiers complexes, des produits dérivés, enfin des engagements dans des swaps qui ont mal tourné. Tout ça a été transféré dans une structure ad hoc et on a assigné en fait un gestionnaire qui ne s'occupe que de ça à temps plein. Cette société continue d'exister aujourd'hui et en fait on la met de côté pour ne pas en fait freiner Deutsche Bank dans son activité bancaire principale qui est essentiellement d'octroyer des crédits à des particuliers et à des entreprises. Ça a aussi été utilisé dans le cadre d'Areva, où en fait on a pris Areva et on a mis la majorité des actifs dans un nouveau groupe qui s'appelle Orano. Donc là, je vous apprends probablement rien, vous connaissez cette histoire. Sauf que Areva existe encore et dans Areva, en fait, on a simplement laissé, bon, plus j'ai dit ça, je crois que ça, c'est un sujet que vous maîtrisez mieux quoi, on a laissé en fait toutes les activités qui sont relatives à la construction d'un EPR, de l'EPR de Flamanville, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Comme il traîne un peu et que les problèmes qu'il cause pèsent sur le bilan d'Areva. En fait, on a scindé les deux et on a mis en fait, tout ce qui relève de l'EPR de Flamanville d'un côté et tout le reste de l'activité de l'autre. Donc, c'est des stratégies qui existent, qui sont souvent employées, en sachant qu'il y a des problèmes aussi comparables. Hein. J'ai évoqué les fameux véhicules de financement local. Ça existe aussi dans le monde occidental et en plus, souvent, du fait de l'absence de contrôle de capitaux dans le monde occidental, c'est des véhicules qui souvent existent à un niveau dans des paradis fiscaux. Par exemple, les îles Vierges britanniques, ou les îles Caïmans, ou les Bahamas, ou les Bermudes, c'est des pays qui enregistrent énormément de véhicules de financement, de sociétés écrans, sur lesquels on n'a pas vraiment, en fait... Merci, effectivement, c'est celui-là. C'est le père de Norvège, je crois, si je ne dis pas de bêtises. De Finlande, pardon. Et on n'a pas, en fait, on a aussi une grande opacité, en fait, sur ces structures. Alors, pour autant, c'est des structures qui concernent plus le secteur privé que les collectivités territoriales. Il n'y a pas cette idée que l'Île-de-France, par exemple, va employer des véhicules domiciliés aux îles Caïmans pour se financer. Ça, c'est un problème vraiment purement chinois. Alors, je passe à la suite. Alors, le projet de route de la soie par le réseau ferré, oui. Oui, effectivement, le projet de route de la soie prévoyait notamment le développement d'un réseau ferré qui devait relier la Chine à l'Europe, notamment par la Russie. Alors toutes les voies qui empruntent, qui passent par le territoire russe sont de facto obsolètes. Et après, pour ne rien vous cacher, je ne suis pas non plus forcément à jour hein, sur l'état de ces projets vraiment très précis, sur cette ligne très précise. Je ne sais pas si elle est encore en construction ou pas, mais en tout cas oui, elle est obsolète. Après, je l'avais déjà évoqué lors de ma dernière intervention il y a quelques années, mais le projet des routes de la soie à l'origine cherchait à éviter au maximum le territoire russe. Donc, à la base, il n'y avait aucune route qui passait par la Russie, il passait plutôt par le Kazakhstan, ensuite par l'Iran, et ensuite remontait par la Turquie vers l'Europe. et on évitait au maximum en fait de traverser la Russie, parce que la Chine en fait a très rapidement vu, et ça s'est confirmé avec l'annexion de la Crimée, a très rapidement vu que la Russie, qui certes était un pays intéressant du fait de voilà, sa capacité à fournir du gaz naturel, avec notamment Power of Siberia, mais aussi sa capacité à offrir une route maritime plus pratique par le nord, à la fameuse voie arctique, était un allié intéressant. Elle a aussi vu que la Russie était un allié un peu trop turbulent, qui posait des risques politiques importants et qui n'était pas forcément opportun de s'associer avec. Et, d'ailleurs, l'invasion de l'Ukraine l'a montré, puisque de nombreuses entreprises chinoises en fait, ont déjà pris les devants et se sont désengagées de la Russie. Par exemple, le constructeur de drones DJI ne vend plus rien et ne produit plus rien en Russie. La plupart des banques chinoises se sont abstenues en fait, de fournir des lignes de crédit à la Russie, n'acceptent pas de payer en rouble le pétrole ou le gaz naturel russe. Donc il y a vraiment une volonté de prendre des pincettes en fait, avec la Russie, et cette volonté, on la sentait déjà lors du lancement en fait, de l'initiative de la route de la soie. On ne voulait vraiment pas passer par la Russie, et la Russie, de fait, n'est pas un acteur important de cette initiative. Alors, je passe à la suite. Comment est-ce possible d'annoncer que l'effondrement du marché du mou est provoqué de façon préventive ? Alors, oui, l'effondrement du marché immobilier a été provoqué de façon préventive. C'est pour le coup, c'est même pas une analyse, c'est quelque chose qui est constatable, en fait. D'ailleurs, je crois que quelqu'un avait mis un peu plus haut, quand je parlais, un lien vers la politique des trois lignes rouges. C'est quelque chose qui a été ouvertement élaboré par le gouvernement chinois. Tout le monde se souvient, en fait, d'un autre discours. J'ai plus l'année en tête, mais c'était un discours de Xi Jinping où il avait évoqué une phrase assez célèbre disant que les maisons étaient construites pour être habitées et non pour la spéculation. Ça a donné le nom en fait à la politique qui a été menée par la suite. Et on a effectivement eu la volonté de désamorcer, on va dire, le secteur immobilier chinois qui était en train d'être incontrôlable. Donc oui, en 2020, le gouvernement a sciemment pris la décision. Alors le terme d'effondrement de marché immobilier, il est un peu provocateur, mais oui, il a préventivement mis en situation d'insolvabilité des groupes comme Evergrande. Ce n'est pas des choses qui apparaissent du jour au lendemain et qui ne sont pas du tout contrôlées. C'est un feu préventif, en fait. La faillite d'Evergrande, c'est quelque chose qui était souhaité. Et d'ailleurs, très rapidement après la faillite, on pourrait vraiment faire le détail. Moi, je n'ai pas voulu le faire parce qu'on n'avait pas énormément de temps. Mais on peut vraiment faire le détail jour par jour des décisions qui ont été prises. Et pratiquement dès le lendemain de annonce de ce plan, et dès le lendemain des conclusions en fait, de ce test des fameux trois lignes rouges, c'est-à-dire aux alentours du 8 septembre, le gouvernement est déjà en fait en train de tenir la main d'Evergrande et de leur dire « bon, ben maintenant cette succursale, tu vas la mettre en vente, celle-là tu vas la coter ici, celle-là tu vas la coter là, tu vas faire ceci, tu vas faire cela ». Et petit à petit, pratiquement jour après jour, semaine après semaine, le gouvernement a expliqué en fait, à la société comment il devait procéder pour dégager du liquide et assainir leur bilan. Donc ça a été fait assez tôt et ça a été fait pour le coup assez bien. L'avenir nous le dira parce que c'est un dossier encore en cours, mais ça a été fait. On a un autre exemple d'ailleurs dans un secteur différent qui est celui des holdings avec le groupe Anbang. Il y a deux grandes holdings qui ont fait faillite, Anbang et HNA. Et dans le cas d'Anbang, on a vraiment le détail de cette opération de désamorçage suivie d'un démantèlement pas à pas, accompagné par la Chine, par le gouvernement chinois. Et cette opération-là, elle était vraiment menée à terme. Donc, je crois aux alentours de juin ou juillet 2022, le dossier a vraiment été clos pour de bon et la société a complètement disparu. Et le gouvernement s'en est sorti bénéficiaire. Hein, il a vendu petit à petit toutes les participations. Il en a gardé une ou deux. Je crois que le gouvernement est toujours propriétaire d'un important hôtel à New York. Mais du reste, la société a été démantelée petit à petit, minutieusement. En même temps, vu le montant des passifs, vu le montant du déséquilibre budgétaire des bilans, il ne peut pas faire autrement. C'est des groupes qui sont Evergrande avec 300 milliards d'euros de dette. C'est énorme. Le gouvernement ne peut pas se permettre de simplement faire défaut sur la dette. Il faut absolument que les obligations financières du groupe soient honorées. Bonne soirée à ceux qui partent. Je passe à la suite. Alors, non, ça n'a pas du tout été abordé à Shkamen. Donc, je lis la question. Est-ce que la Chine pratique des joint ventures avec des grosses boîtes pour les autoriser à commercer sur leur territoire, comme Apple, Microsoft, ARM ou d'autres? Ah, c'est une affirmation, c'est pas une question. Ils imposent à avoir un contrôle sur ces industries et peuvent étudier les produits de ces entreprises. Alors, comment éviter cela? Quels sont les risques d'accaparation, d'accaparement technologique? Le risque, évidemment, il est toujours colossal en Chine, hein, puisque la propriété intellectuelle est une des raisons pour laquelle le pays a été longtemps assez peu populaire auprès des investisseurs étrangers. Pour autant, la Chine cherche réellement à lutter contre, puisqu'elle elle est en fait en quête, hein, depuis plusieurs années, de crédibilité sur le plan international. Et d'ailleurs, sur la question de ces joint ventures, elle a fait des efforts quand même remarquables de libéralisation. Ce n'est pas le cas dans tous les secteurs, mais dans des secteurs comme eh bien, justement l'activité de paiement avec le Visa, Mastercard, dans des secteurs comme la gestion de fonds, comme les services financiers. Elle a autorisé des entreprises à être totalement propriétaires, des entreprises occidentales, à être totalement propriétaires de leurs succursales locales. Donc on a des groupes comme BNP, non pas BNP Paribas, mais UBS, me semble-t-il, est propriétaire à 100% de la succursale chinoise. Donc il y a une volonté vraiment de s'ouvrir, et un des aspects qui est, en tout cas qui est vraiment central, c'est la question de la propriété intellectuelle. Alors toujours, c'est une question qui se pose vis-à-vis des autres entreprises chinoises, c'est-à-dire que la Chine cherche vraiment en fait à standardiser et réglementer la question de la propriété intellectuelle. Pour autant, il ne faut pas se leurrer, toute entreprise occidentale ou même chinoise qui est présente sur son sol fait l'objet d'une surveillance, fait l'objet d'audits qui donnent accès en fait au gouvernement et éventuellement à l'armée chinoise, une vue en fait complète, hein, sur ce que la société a à offrir. Donc, après, dans un sens, j'ai envie de dire comme partout, si on va en Chine, aux États-Unis, c'est pareil, on est soumis au contrôle de différents organes chinois, américains, on est soumis au contrôle de la SEC si c'est applicable, du PCAOB si c'est applicable, et on est obligé d'ouvrir ses comptes, Airbus est obligé de laisser des auditeurs américains, des cabinets d'audit américains, venir fouiller, on va dire, dans leurs affaires. Donc ça, malheureusement, c'est consubstantiel en fait au développement international. Mais on peut imaginer qu'il y a des succursales qui écoulent des produits sans faire de production locale, sans détenir de brevets. On peut évidemment ségréguer les différentes activités. C'est pas un problème. Alors, chaise, oui, ben justement, j'ai évoqué le cas de la Chine, j'ai évoqué le cas de l'Inde, il y a d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui sont très, très portés sur le paiement par téléphone. J'ai un peu modéré, en fait, nuancé mes affirmations sur le cas du Japon qui, effectivement, paye encore beaucoup en liquide. Pour autant, ce qui est remarquable, c'est que le paiement par mobile est très populaire, beaucoup plus populaire que le paiement par carte bancaire. En fait, la carte bancaire est vraiment une technologie qui n'a jamais eu le temps, en fait, de se répandre dans la plupart des pays asiatiques. C'est rarissime de pouvoir payer par carte bancaire au Japon. C'est un pays que je connais bien, que j'y suis resté assez longtemps. Et effectivement, soit on paye par téléphone, soit on paye en liquide. C'est un pays qui a gardé la pratique du liquide. Alors, on passe à la suite. Où se situe la Chine aujourd'hui dans la compétition mondiale, dans la recherche scientifique et les capacités technologiques, et où se situera-t-elle demain? Je vais essayer d'être succinct aussi sur cette question. Alors bon, c'est toujours compliqué en fait d'avoir une appréciation subjective de la place de la Chine sur ces questions-là. C'est pas vraiment un domaine où on a des informations quantitatives. Alors on peut se reposer sur certains indicateurs, la Chine est le pays qui aujourd'hui enregistre le plus de brevets, mais ça ne nous dit rien de la qualité des brevets, ça ne nous dit rien de leur authenticité. C'est un pays qui a parmi les plus importants budgets de développement, les plus importants budgets de recherche. C'est un pays qui s'est considérablement amélioré dans l'offre en matière d'éducation, d'enseignement supérieur, pardon. Il y a des grandes entreprises comme l'Université de Pékin, ou d'autres qui sont extrêmement bien classés, qui fournissent vraiment un enseignement de grande qualité. Je l'avais évoqué à une autre occasion, mais la Chine est aussi un pays qui cherche à récupérer un certain nombre de talents, parce que beaucoup d'étudiants chinois, ou bien étudient en Chine, ou bien partent directement à l'étranger, mais finissent par travailler à l'étranger, en général dans des entreprises européennes ou américaines. La Chine essaye de récupérer ces gens-là, idéalement de récupérer aussi le capital intellectuel qu'ils ont acquis. Donc elle a quand même, je pense, un bon niveau, on va dire, en matière de recherche, en matière de capacité technologique. Je sais que la Chine, ce ne sont pas des secteurs que je maîtrise particulièrement, mais je sais que la Chine est à la pointe dans des domaines très spécifiques comme le traitement d'industrie pharmaceutique, le traitement de certains cancers, par exemple, ou certaines biotechnologies où elle est vraiment très, très en avance. Il y a eu le cas qui avait un peu défrayé la chronique et qui est peut-être un peu racoleur, mais qui est aussi intéressant, de CRISPR-9, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est un outil d'édition génétique, avec un chercheur qui avait notamment affirmé avoir modifié le génome de deux jumelles pour les rendre, les immuniser, je crois, au VIH, si ma mémoire est bonne. C'est pas forcément CRISPR, c'est ça, merci. CRISPR-Cas9. Alors, c'est pas forcément une actualité qu'il faut prendre l'histoire du chercheur fou. D'ailleurs, il faut noter que ce chercheur, contrairement à l'idée qu'on se fait d'une Chine qui n'aurait vraiment aucun scrupule vis-à-vis de l'éthique, etc., c'est une histoire qui a créé un scandale assez important en Chine, et le chercheur est en prison. C'est pas du tout bien passé dans l'opinion publique. Donc, globalement, c'est quand même un pays qui a quand même une bonne, on va dire, capacité scientifique à l'heure actuelle. Et c'est surtout, et je vais vraiment m'arrêter là, c'est un pays qui a fait le choix de développer énormément cette capacité technologique. Pendant très longtemps, la Chine s'est contentée non seulement de copier des technologies, mais s'est même contentée finalement d'avoir des industries à faible valeur ajoutée. Historiquement, c'est le textile qui était la grande industrie chinoise. Mais depuis, elle a mis en place un plan, je crois que c'était en 2015, c'était un plan décennal qui s'appelle Made in China 2025, qui est donc censé aboutir dans 3 ans. C'est un plan qui a été mis en place, alors non pas par Xi Jinping, mais par le premier ministre qui s'appelle Li Keqiang, et qui est vraiment un fonctionnaire et un économiste pur jus. Ce n'est pas du tout une créature de parti, c'est vraiment un technicien. Et il a mis en place ce plan pour en fait permettre à la Chine d'atteindre un niveau très important, à la fois d'autonomie et d'expertise dans une trentaine de domaines précis. C'est des domaines tous de très haute technologie. Ça va être, j'ai évoqué plus tôt, les véhicules électriques, ça va être la production d'énergie solaire, ça va être l'agronomie, la bioagronomie avec les nouvelles technologies agricoles, ça va être les semi-conducteurs, évidemment, qui est un des grands points morts, on va dire, de l'industrie chinoise. Elle est très dépendante en termes de semi-conducteurs de pays occidentaux, et notamment Taïwan. Donc il y a vraiment une volonté en fait d'être à jour. Après, quelqu'un me l'avait fait remarquer, je crois que c'était Prali ou c'était peut-être Lifax, on m'avait fait remarquer à très juste titre que mettre de l'argent ne suffit pas en fait pour obtenir un niveau important dans ces domaines-là. Pour autant, il y a une vraie volonté à long terme en fait. Ça rappelle un peu le plan, le commissariat au plan français. Il y a une vraie volonté d'obtenir cette autonomie dans tous ces domaines. Voilà, je pense que ça conclut cette question. Alors Thomas Nisch, on revient à l'effondrement du marché immobilier. Alors c'est plutôt optimiste. Là, je m'abstiens en fait de faire d'émettre un jugement, une appréciation en fait sur cette situation. Effectivement, je me contente de constater qu'effectivement le marché immobilier a été secoué volontairement pour pouvoir anticiper une crise immobilière. Pour autant, l'effondrement incontrôlable et imminent, il peut peut-être se produire, il peut éventuellement se produire. C'est encore une fois un marché, un secteur très important dans l'économie chinoise. Ça représente un peu moins de 30% du PIB, un nombre d'emplois incalculable, énormément de fournisseurs, énormément d'industries connexes. On est dans une situation, comme j'avais évoqué au niveau de la démographie, il n'y a plus vraiment de demande importante en Chine. Les prix de l'immobilier, je ne suis pas trop revenu dessus, mais ils sont très importants. Ils représentent à peu près, en termes de rapport, on est à plus de 40 fois le salaire annuel dans certaines villes comme Shanghai, donc c'est vraiment très élevé. La moyenne dans des villes comme New York ou Paris, elle est de 9 à 10, ce qui est déjà élevé. Donc, il y a vraiment une surchauffe en fait, du secteur immobilier. Est-ce que la Chine va être en mesure de le traiter ou pas? C'est une autre question. Mais personnellement, j'aurais plutôt tendance à être optimiste, parce que la Chine a encore beaucoup de cartes à jouer, elle a encore beaucoup de liquidités, donc elle est quand même encore en capacité, dans l'éventualité où il faille vraiment en fait, reprendre en main toutes les créances des promoteurs immobiliers, elle a la capacité en fait, de le faire aujourd'hui, mais elle cherche vraiment à contrôler en fait, la chute du secteur immobilier de manière très chirurgicale. Étant donné qu'elle a déjà une petite expertise sur d'autres secteurs, comme le secteur justement bancaire, je pense qu'elle est assez à même en fait de gérer la question. Mais rien ne nous dit que la Chine ne va pas connaître une crise immobilière. Puis très honnêtement, si la Chine connaît une crise immobilière, ça deviendra immédiatement une crise nationale et une crise mondiale. Alors, une autre question. Le contrôle politique de Hong Kong par la Chine a-t-il eu un impact sur le blanchiment d'argent issu de la corruption en Chine ? Je ne pense pas, très honnêtement. Je ne pense pas que ce soit lié. Pour une raison très simple, c'est que la Chine a évidemment une connexion très forte avec Hong Kong. Je ne vais pas revenir forcément sur le sujet de Hong Kong, d'autant que c'est une histoire qui est assez connue, je crois. Hong Kong est historiquement cette sorte de porte d'entrée vers la Chine, ce qui a permis à la Chine de contourner un certain nombre de dogmes économiques et d'avoir à la fois un marché ouvert et un marché fermé, à la fois une liberté de circulation des capitaux, à la fois un contrôle de capitaux. Elle a mis en place, je crois que c'est sûrement pas à vous, je vais l'apprendre, des mécanismes qui permettent en fait de communiquer entre Hong Kong et la Chine avec un système d'investisseurs qualifiés, institutionnels qualifiés pour pouvoir investir sur le marché chinois et vice-versa, avec des mécanismes comme Bond Connect et Stock Connect qui en fait, offrent la possibilité de communiquer entre les deux économies. Pour autant, Hong Kong n'est pas la seule porte d'entrée vers la Chine. Et beaucoup de capitaines d'industrie, beaucoup de grandes fortunes, voilà, je cherchais le terme chinoise, optent encore pour d'autres juridictions, comme Singapour par exemple. Donc la Chine a certes accru son contrôle sur Hong Kong, pour autant elle n'a pas non plus une vue, on va dire, sur l'ensemble du patrimoine de ses fonctionnaires, de ses grandes fortunes, qui ont encore la possibilité de dissimuler leur argent ailleurs. C'est un pays qui effectivement exerce des contrôles de capitaux assez forts, mais c'est pas non plus totalement imperméable. On a encore la possibilité de circuler de faire circuler de l'argent et des services entre la Chine, Hong Kong, Taïwan. Il y a énormément de relations entre la Chine et Taïwan, Singapour et même des paradis fiscaux. Beaucoup d'entreprises chinoises qui sont domiciliées aux Bermudes, aux îles Vierges britanniques. C'est assez courant en fait. Alors, à quel point la Chine s'est rapprochée de la Russie depuis le conflit ukrainien ? Alors, c'est assez amusant comme question, Zilot, puisque j'aurais plutôt tendance que la Chine s'est un peu éloignée en fait, de la Russie suite au conflit ukrainien, pour des raisons que j'avais déjà évoquées à l'instant. C'est un partenaire assez turbulent, en fait, la Russie, et comme la Chine n'est pas du tout dans la même optique que la Russie, à savoir un affrontement frontal, voire militaire, avec les puissances occidentales, la Chine est plutôt partisan d'une plus grande intégration dans le concert des nations, dans la mondialisation. Elle souhaite un peu revitaliser une diplomatie westphalienne. Vous avez tous remarqué la manière dont elle a coopéré de manière, on va dire, très zélée avec l'Organisation mondiale de la santé lors de la crise sanitaire. Elle essaie vraiment de montrer des gages de participation, on va dire, au jeu institutionnel. Dans le cas de, par exemple, les problèmes de crédit. Ah, ben, justement, c'était la question de Fukusako après. L'annulation des prêts contractés par des pays africains, elle l'a fait de manière multilatérale, avec la France notamment. Elle a dirigé un comité attenant au Club de Paris pour annuler la dette de la Zambie. Donc c'est un pays qui est assez vraiment intégré en fait, dans la mondialisation, qui cherche à s'intégrer dans la mondialisation. D'ailleurs, vous avez bien vu que quand il y a eu un conflit à partir de 2015 entre la Chine et les États-Unis, les États-Unis ont été très offensifs dans la communication, très offensifs dans les revendications. Ce n'était pas le cas de la Chine. La Chine était vraiment très ouverte à la discussion, négociait, etc., etc. Et c'est un pays qui est assez embarrassé en fait, hein, par le comportement de la Russie, bon, qui en même temps a bien compris que si la Russie ne vendait plus de gaz à l'Europe, elle allait en vendre ailleurs et que de fait, il y avait moyen de sécuriser, on va dire, des ressources énergétiques à bas coût. Et d'ailleurs, la Chine profite assez régulièrement, hein, de la marginalisation de la Russie vis-à-vis du monde occidental pour mettre la main sur des ressources énergétiques, et notamment du gaz naturel, mais elle essaye assez peu de s'associer à ce que la Russie fait. D'ailleurs, la communication est éloquente. La Chine n'a pas pris position explicitement contre l'Ukraine, bien au contraire. La position de la Chine officiellement, c'est appeler à la paix, appeler au dialogue, appeler au respect de la souveraineté de chacun, condamner éventuellement les excès du monde occidental ou de l'OTAN qui cherche à mettre de l'huile sur le feu. Mais vraiment, il n'y a pas l'idée que la Russie est dans son bon droit. La Chine n'approuve pas l'invasion de l'Ukraine. Dans la communication officielle, la Chine n'approuve pas l'invasion de l'Ukraine. Il y a vraiment un appel à ramener la paix sur le territoire ukrainien, ou quelque chose de beaucoup plus modéré que ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est pas la ligne de l'Iran, c'est pas la ligne ni même du Brésil. Alors, je passe à la suite. Ben voilà, je viens d'en parler. L'annulation des prêts contractés par 17 pays africains. Alors, sa stratégie économique en Afrique sur le long terme, je ne sais pas s'il s'agit de la stratégie économique en elle-même ou bien simplement de sa relation vis-à-vis des mauvais emprunteurs. Je vais peut-être parler des deux en vitesse. Alors, la relation vis-à-vis des mauvais prêteurs, c'est le cas des pays africains, c'est aussi le cas des autres pays, le cas du Sri Lanka il y a assez peu de temps. Les pays qui sont généralement en difficulté, la Chine est assez susceptible en fait, de restructurer les dettes. Elle reste frileuse à l'idée de les annuler pour des raisons en fait, qui sont vraiment morales. Elle craint que si un pays découvre qu'il peut voir sa dette annulée trop facilement, elle craint que tous les engagements qu'elle a pris dans le cadre des routes de la soie soient annulés et qu'elle encaisse, en fait, qu'elle réalise des pertes trop importantes. Pour autant, elle est assez disposée en fait, à renégocier les prêts, à abaisser le taux d'intérêt, à retarder le paiement des échéances. Son approche, donc, elle est plutôt flexible sur la question. Généralement, elle est bilatérale, rarement multilatérale, même s'il y a eu des exemples en date, à savoir la Zambie que j'ai évoqué plus tôt. Mais en général, elle préfère se tenir à l'écart du FMI ou du Club de Paris ou de la Banque mondiale et préférer renégocier, en fait, de gré à gré la dette. Après, la politique économique de la Chine, de la Chine en Afrique, c'est une politique c'est une politique de développement qui est assez semblable à la nôtre à l'époque où on avait encore une activité assez importante dans des pays comme la Somalie, comme l'Érythrée, etc. À savoir le financement d'infrastructures. Alors, je vais peut-être mettre plutôt en évidence un point, une différence importante qu'il y a eu entre la Chine et les principales puissances occidentales. C'est que, encore une fois, en dépit de l'image qu'on se fait, la Chine a été assez soucieuse de mettre à contribution la main-d'œuvre locale. Et on a des groupes comme Huawei, par exemple, qui ont formé vraiment des dizaines de milliers de travailleurs locaux pour remplir des centres de distribution, pour remplir des centres de, comment on appelle déjà ça, de services après-vente, ce genre de choses. Donc la Chine n'a pas non plus fait débarquer sur son sol que des travailleurs chinois. C'est une image qu'on se fait souvent, mais pas complètement vrai. Et elle a retenu, encore une fois, une leçon tout à fait occidentale, qui est que les pays africains, en fait, ont assez peu profité des largesses, on va dire, des pays occidentaux, dans le sens où, certes, il y a eu des infrastructures qui ont été construites, il y a eu des ports, il y a eu des lignes de chemin de fer, des écoles, des hôpitaux, etc. Mais ce sont des prêts occidentaux qui ont financé des entreprises occidentales qui sont venues sur place. Et donc, au final, l'économie africaine en a Les économies africaines en ont assez peu profité. La Chine essaye de nuancer ce point-là en contribuant un peu plus, on va dire, à l'activité économique locale. Mais bon, il reste que ce sont des entreprises chinoises et quand même beaucoup de personnel chinois. Mais il y a quand même une petite différence, une petite subtilité qui me semble intéressante de relever. Mais après, du reste, voilà, sa politique est assez semblable à la nôtre, donc elle va intervenir, elle a réparé, elle a reconstruit en fait un chemin de fer sur la ligne. Addis Abbas, je ne sais plus quelle ville est reliée entre la Somalie, je crois, et l'Érythrée, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est une ligne assez importante. La reconstruite à neuf sur la ligne précédente qui avait été construite par la France, elle a participé au développement, alors beaucoup plus dans l'Afrique de l'Est que dans l'Afrique de l'Ouest, hein, pour des raisons évidentes. Elle développe notamment des infrastructures portuaires en Tanzanie, au Kenya. Elle est très active à Djibouti aussi. Elle essaye en fait de raccorder sa politique d'investissement en Chine avec le plan global des routes de la soie qui consiste en fait à relier les ports chinois aux marchés occidentaux. Et les marchés occidentaux, ça inclut aussi la Chine. Donc elle va plutôt se focaliser sur les côtes orientales, qui sont vraiment les portes d'entrée en fait du continent africain. C'est là où on va retrouver le plus ses investissements. J'ai évoqué la Zambie, le Mozambique, ce sont des pays qui ont beaucoup profité des investissements chinois. Alors, je passe à la suite. Ah, c'est une question très intéressante, ça. La Chine a-t-elle quelque chose à faire de l'écologie ou bien ignore-t-elle le sujet ? Alors oui, elle a quelque chose à faire de l'écologie, je vais même peut-être préciser, elle porte énormément d'intérêt à l'environnement, plus qu'à l'écologie en réalité. Pour des raisons de communication, elle présente son engagement environnemental sous la forme d'un engagement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc la Chine, c'est un pays qui est très intéressé par, encore une fois, toujours dans cette idée de mondialisation et d'intégration dans la mondialisation, qui est très intéressé par des initiatives comme la COP21, qui est très intéressé par les accords de Paris, ce genre de choses, pour montrer qu'elle va faire des efforts, pour montrer qu'elle va limiter ses émissions de dioxyde de carbone. Mais en réalité, ce qui intéresse la Chine, c'est surtout l'état de son environnement. C'est un pays qui a connu une très forte pollution, une pollution de l'eau, une pollution de l'air, qui a eu des coûts économiques et sanitaires très importants dans des villes comme Shanghai, Beijing. Tout le monde se souvient de ces espèces de brouillards permanents qui affectaient la santé des résidents et des habitants. C'est un pays qui a connu des catastrophes naturelles vraiment très très nombreuses, avec des rejets de matériaux chimiques, des rejets de matériaux toxiques dans des fleuves, dans des campagnes. Et c'est un pays qui, en dépit de sa taille, a assez peu en fait de terres cultivables. Il y a assez peu de terres cultivables, de terres arables en Chine. Et une des priorités du gouvernement, enfin une des obsessions du gouvernement chinois, et ça raccorde d'ailleurs avec la politique d'investissement en Afrique, c'est la sécurité alimentaire. La Chine achète énormément de terrains à l'étranger, notamment donc en Afrique, dans la corne de l'Afrique, en vue d'assurer sa sécurité alimentaire. C'est un pays qui importe beaucoup de nourriture, et elle importe beaucoup de nourriture d'Ukraine, de France, des États-Unis, notamment du soja. Et c'est un pays qui vraiment a très très peu de terres cultivables. Le peu de terres cultivables qu'il a, il les a souvent abîmées et rendues incultes du fait du rejet de métaux lourds, du rejet de matières chimiques. Et il mène une politique assez coûteuse et assez intense dans le but d'augmenter en fait sa capacité à cultiver ces terres. Donc c'est vraiment un sujet, la question de l'écologie en tout cas, est un sujet très très sérieux et très réel en fait en Chine. Mais c'est plus par volonté en fait d'assurer ses ressources alimentaires, par volonté de rendre à ses citoyens, on va dire, des conditions de vie plus décentes, notamment sur la question de la pollution de l'air, que vraiment par engagement pour le réchauffement climatique. C'est pas le réchauffement climatique qui motive la Chine sur ce terrain-là. Je passe à la suite. N'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être un complément ou une information ou autre. Je passe à la suite. Comment peut-on être sûr que ces dirigeants d'entreprise sont bien en prison? Alors, ça, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne sais même pas lire votre pseudonyme. OTNRV. OTNRV, je ne sais pas trop quoi répondre. J'imagine qu'ils sont bien en prison, puisque le procès a eu lieu. Il faut savoir que les procès ont quand même une forme de publicité. On peut y assister, donc on a quand même visuellement des photographies de la personne avec les menottes au poignet. Après, est-ce qu'elle est en prison par la suite, ou quel est le type de prison dans laquelle elle est? Est-ce qu'elle est dans une prison luxueuse type Loup de Wall Street, ou est-ce qu'elle est dans une prison insalubre? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Mais ça m'étonnerait qu'elle ne soit pas en prison, en tout cas. Vous pouvez par exemple consulter le cas de Wu Xiaohui, qui était le dirigeant de la société Anbang dont j'ai parlé. C'était une compagnie d'assurance privée, donc une des principales holdings de Chine, une des principales holdings privées de Chine, qui s'est fortement endetté, qui a acheté à grands frais des hôtels, des compagnies d'assurance en Europe. Je crois qu'il a participé, qui est rentré au capital du Club Med à très grands frais et de manière très déraisonnable. Et il a été accusé en fait, alors je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais en tout cas il a été accusé par le gouvernement d'avoir détourné une partie des fonds. Et il a été condamné, me semble-t-il, à, je crois que c'est 10 ou 15 ans de prison dans ces eaux-là. Je me souviens de la photographie de son procès, donc vous pouvez peut-être la retrouver et enquêter sur cette question. Je vais trouver une coupure de presse.
Il demande également, lié à cette question, est-ce qu'il y a des témoignages de détenus, d'anciens dirigeants?
Et moi, je vais me permettre d'intervenir. On approche des 23 heures. Combien de temps souhaites-tu continuer, tout simplement?
Oui, écoutez, je vais lire les dernières questions. Et puis après, si vous voulez discuter un peu de manière plus informelle, pourquoi pas. Je vous laisserai sur le coup de 23h30. Ça me paraît bien.
Eh bien, merci.
Alors, je cherche en vitesse. La condamnation de notre ami. Voilà, si ça vous intéresse de creuser ce domaine-là. Donc, où en étais-je ? La question de Hassan. Pourquoi la France spécifiquement devrait craindre la Chine dans les prochaines années ? Craindre, le terme ne me paraît pas forcément approprié, surtout que dans le cas de la France, il y a assez peu en fait, de connexion avec la Chine. C'est un pays qui ne pèse pas énormément dans nos importations, qui ne pèse pas énormément ou plus énormément dans nos exportations. On avait jadis une présence assez importante en Chine, notamment dans le domaine ferroviaire. Alstom est une des premières entreprises à être entrée en Chine. EDF l'était également, Areva l'était également. C'est moins vrai aujourd'hui, les réacteurs chinois sont plutôt des modèles américains, voire des modèles, peut-être que Genista me corrigera sur ce point, mais sont des modèles ou bien américains ou bien autonomes. Les trains grande vitesse aujourd'hui sont construits par des entreprises chinoises, on n'est plus du tout associé à la SNCF ou à Alstom. Donc la France, elle a assez peu de liens en réalité avec la Chine. La Chine sur le territoire français, bon, il y a des questions un peu anecdotiques, mais qui méritent quand même d'être soulevées, telles que l'achat de terres agricoles. Encore une fois, on a toujours cette obsession des terres agricoles. L'achat de vignobles, l'achat de certaines infrastructures portuaires, un groupe qui s'appelle CM Port, China Merchant Port Holding, qui avait acquis une participation dans un grand port français, un des principaux ports français. Mais à part ça, il n'y a pas énormément, c'est surtout du patrimoine immobilier ou du patrimoine agricole, et c'est souvent en fait des achats qui sont menés par des particuliers chinois. Il y avait le cas notamment, je crois que c'était dans la Creuse, de très grandes fermes qui avaient été achetées par un chef d'entreprise qui gérait des boulangeries en fait en Chine, et il voulait absolument que le pain vendu dans ces boulangeries vienne de farine française. Alors ça a mal tourné parce qu'il a... La société a fait faillite, il a disparu, donc les fermes n'étaient plus gérées en France. Enfin, il y a tout un dossier, il y a tout un feuilleton. Mais globalement, en fait, ce type d'investissement, c'est pas l'État chinois, c'est vraiment plutôt des particuliers ou des entreprises qui vont essayer de rentrer en France. Et ça, c'est très modeste, en fait, en termes de proportion, c'est assez modeste hein, par rapport à d'autres pays. Il y a des pays, notamment tous les pays qui sont concernés par les routes de la soie, sont beaucoup plus intégrés en fait, à l'économie chinoise que nous le sommes. Merci, Genista, pour le complément d'information. Alors, d'où vient l'expertise économique de l'État chinois capable de redresser des sociétés de manière efficace que l'ancienne direction des sociétés ? C'est la pratique, hein, tout simplement. C'est-à-dire que depuis la fin des années 90 plutôt, il y a eu énormément en fait, de groupes qui ont profité de la croissance de la Chine, qui ont profité d'un endettement facile et qui ont connu des difficultés très importantes. Et très rapidement, la Chine en fait, a dû faire face à des sociétés qui ne pouvaient pas en fait, être mises en faillite du fait de leur importance structurelle. Et donc, c'est vraiment une question d'expérience. Elle a commencé à traiter des faillites. Le groupe H&A, qui est un des premiers à avoir été en difficulté financière, ensuite elle a traité... beaucoup de sociétés zombies. Sociétés zombies, c'est des entreprises d'État ou des entreprises publiques qui n'ont aucune viabilité financière et qui généralement servent des intérêts purement politiques. Il y en avait énormément dans le passé, il y en a moins maintenant. Alors là, je crois que j'ai des chiffres sous la main. Voilà ce qu'on appelle une entreprise zombie. Je n'ai pas la définition exacte sous la main, mais c'est une entreprise qui n'a vraiment aucune rentabilité, aucune perspective de rentabilité financière. Il y en avait 2041 en 2016. 841 en 2017, 141 en 2018 et seulement 102 en 2019. Après, on n'a plus les chiffres parce que le ministère des Finances a cessé de nous les donner, mais ce sont des données qui ont été vérifiées et approuvées par le FMI. Et bien que je n'aime pas spécialement le FMI, il n'y a pas de raison de croire qu'ils aient cherché à nous induire en erreur en fait, sur cette question-là. Donc, il y a quand même une bonne expertise à gérer des groupes qui n'ont aucune raison d'être, ou des groupes qui sont en difficulté financière, ou des groupes qui sont fortement connectés dans l'économie locale ou dans un secteur particulier, et qui ne peuvent pas simplement être laissés en faillite. Donc c'est plus une forme d'expertise pratique. J'aurais une dernière question à résoudre. À quel point la Chine arrive-t-elle à attirer et retenir des talents étrangers ? Comment réussit-elle cela par rapport aux autres pays ? Alors j'ai pas une grande expertise en la matière, donc je peux pas non plus vous livrer une opinion très éclairée, mais je pense que ces tentatives d'attirer des talents vraiment étrangers sont assez frustrées par des barrières telles que la barrière linguistique. Sauf qu'en Chine, il n'est vraiment pas question de parler anglais, c'est un pays qui est assez hostile à l'idée d'adopter des langues étrangères. La documentation chinoise est évidemment en chinois, les états financiers sont en chinois, l'activité quotidienne est en chinois, c'est une langue très compliquée à apprendre pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer ce soir. Donc les talents étrangers rentrent assez peu en fait en Chine. Pourtant les incitations sont assez importantes. Il faut savoir que, par exemple, les compagnies aériennes chinoises sont en plein essor. Le marché aérien chinois, le marché du transport aérien chinois est vraiment un marché qui a une croissance absolument phénoménale. Ce sont des compagnies aériennes qui commandent régulièrement des centaines et des centaines d'Airbus chaque année. Et il y a une véritable pénurie de main-d'œuvre en fait, pour gérer ce parc. On manque de pilotes, on manque de personnel de bord, on manque d'hôtesses, on manque de contrôleurs aériens, on manque en fait énormément de personnel dans le domaine de l'aéronautique. Et en Chine, un commandant de bord, il peut au minimum quadrupler son salaire s'il va travailler dans une compagnie chinoise. Pour autant, ça ne se fait pas pour les raisons que j'ai évoquées. C'est que la langue est compliquée, que le transport aérien se fait essentiellement en chinois malgré tout, malgré les conventions internationales. C'est très difficile en fait, hein, d'abandonner sa vie et d'aller s'établir en Chine, qui est vraiment un pays assez étranger en fait, au nôtre. Alors que les pays occidentaux que vous avez évoqués, la France, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède, etc., c'est des pays dans lesquels on peut immigrer sans grande difficulté. Je veux dire sans grande difficulté d'adaptation, sans grande difficulté linguistique. À mon sens, c'est vraiment la raison pour laquelle la Chine a vraiment du mal à faire rentrer sur son sol des experts étrangers. Il y en a pour autant, il y a des talents, il y a des Français expatriés qui vivent et travaillent en Chine. Et la langue est compliquée à apprendre. Oui. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, d'autant que j'ai quand même une mauvaise connaissance on va dire c'est la dernière question. D'autant que j'ai une mauvaise connaissance de la langue chinoise, mais c'est une langue assez compliquée à deux titres. Déjà, elle a une phonologie qui est très étrangère à la nôtre, c'est-à-dire des sons qui ne nous sont pas du tout familiers et qu'il est très difficile à acquérir. Par-dessus ces sons, il y a un système tonal tout aussi complexe. Alors, en mandarin, donc, qui est la langue chinoise habituelle, courante, c'est un système à tons qui est relativement aisé puisqu'il n'existe que 4 tons, mais dans des variantes dialectales assez parlées, comme par exemple le cantonais ou d'autres, on peut retrouver 5, 6, 7, 8 tons qui ajoutent vraiment de la complexité à la langue. Et en parallèle, on a une écriture qui est idéographique, sinographique, avec donc un nombre considérable de caractères dont il faut apprendre le tracé, dont il faut apprendre la prononciation. Et c'est quelque chose qui vraiment rend très compliqué en fait, l'acquisition de la langue chinoise. Un peu comme la langue japonaise, cette différence que le japonais n'a pas d'importance sémantique particulière en japonais. Mais ce sont des langues en général très difficiles à acquérir. Hein. Il faut évidemment plusieurs années pour apprendre à les parler. Et donc, je vais m'arrêter là. Pour yaourt en vitesse, la méfiance vis-à-vis du FMI, je rappelle simplement que le FMI, c'est un organisme qui est essentiellement soumis, on va dire, à des impératifs politiques américains. C'est une organisation qui compte énormément d'économistes, d'analystes et d'administrateurs dont je ne doute pas de la compétence, mais qui ont malgré tout une formation et une doctrine économique très marquée, très libérale. Typiquement, le FMI, si vous voulez accéder en tant que pays, si vous êtes un pays en détresse et que vous voulez accéder à un financement du FMI, vous allez être soumis à des contraintes budgétaire, on va vous demander de mettre en place des politiques d'austérité, on va vous demander de libéraliser les taux de change, on va vous demander de supprimer les barrières douanières, on va vous demander de privatiser les entreprises publiques, on va vous demander d'assainir votre budget en réduisant les dépenses sociales, en réduisant les dépenses éducatives. Ce qu'on appelle couramment le consensus de Washington, c'est une idéologie qu'on qualifie parfois de libérale ou d'ultralibérale qui a vraiment un fort historique en fait, au sein du FMI. Et encore aujourd'hui, c'est typiquement des demandes qui formulent, alors même qu'on sait que ce n'est pas spécialement efficace, c'est des demandes qui sont systématiquement formulées quand un pays veut un financement auprès du FMI, ou de la Banque mondiale d'ailleurs. Donc voilà pour les questions. Merci à vous, ça me fait très plaisir. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. Et si vous voulez discuter un peu plus librement, je vais encore rester 10 ou 20 minutes.
D'accord.